Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On est donc avec Anthony et avec Mathieu qui ont répondu très sympathiquement à mon appel. Alors Anthony, toi, t'es arrivé par l'intermédiaire de d'Anne-Laure, qui est une très bonne amie à moi et qui fait le podcast On the Verge, où tu t'es retrouvé à raconter ton rapport au cul, hein, je crois, tout simplement. Hein.
C'est ça. Et donc je me suis retrouvé comme par hasard à son boulot. Mais tiens, vas-y. Non, c'est un podcast que j'ai fait il y a un an et demi. Donc voilà, j'ai gardé contact avec Anne-Laure depuis parce que c'est une personne vraiment super sympa. Donc elle savait que je faisais une vasectomie et donc quand elle a vu ta story, elle m'a dit vas-y. Donc c'est comme ça que je me retrouve ici ce soir.
Et toi Mathieu, tu me suis sur Insta je crois depuis un petit bail en fait.
Exactement, ouais, depuis chez Mademoiselle depuis quelques temps, plutôt sur les podcasts que sur en lecture parce que j'ai pas mal de routes et ça m'accompagne bien. Et puis voilà, les sujets de parentalité et tout ça, ça me faisait bien. Et puis j'ai suivi aussi ce magnifique podcast sur la vasectomie, podcast, cette interview, ce fait marquant.
Ah, quand j'ai raconté dans l'histoire,
ouais,
de Daron, c'est ça?
Ouais, tout à fait.
Quelle vie. Vous allez nous expliquer tous les deux comment vous en êtes venus à la vasectomie, mais je trouvais que c'était important de faire ce live ensemble ce soir parce que toute l'histoire est venue à la base d'un react que j'ai fait. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo avec Joyka, qui est un gros youtubeur qui a plus de 4 millions d'abonnés et qui raconte son opération des testicules. Il s'est fait opérer en urgence de son testicule gauche, n'est-ce pas, il y a quelques semaines, et il le raconte sur sa chaîne YouTube. Et donc Mimi, qui est la rédactrice chef de Mademoiselle, a eu la très bonne idée de m'envoyer cette vidéo en me disant: tu la regardes pas maintenant, tu la regardes en live, en react sur Twitch, et tu vas voir, ça va être marrant. Et effectivement, c'était marrant. Et donc les gens m'ont dit vas-y, fais donc un live sur la vasectomie. Et je me suis dit, bah, plutôt que de juste raconter mon histoire, en plus qu'on a déjà entendu, ça serait cool d'avoir d'autres sons de cloche. Donc merci beaucoup les gars d'être là, c'est vraiment cool. On va passer une bonne soirée. Et toi-même tu stream, c'est le moment de placer un petit big up pour ta chaîne, quoi.
Voilà, je stream, je fais du jeu vidéo, moi je ne fais pas de podcast. Et ma petite chaîne s'appelle Tonyob, T-O-N-Y-O-B.
Je suis drôle. Tonyob, parce que moi j'avais vu Tonyob.
Alors, à l'origine, mon pseudo se lisait Tonyob, mais tout le monde l'a lu Tonyob, donc à un moment j'ai changé.
Ok, moi je me disais, le mec s'appelle Tonyob, tu vois, comme genre les Sopranos,
comme
quoi.
Comme Benébi.
C'est le vieil ref.
Je suis de cette époque. Je suis vieux. Hein,
écoute, c'est bien. Hein. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous parler de ce... Ah, on attend les effets Go XLR. Allez, let's go.
Il n'y en aura pas. Franchement, voilà, me cherchez pas là-dessus, il n'y en aura pas.
Waouh. Donc avant tout, je voudrais vous parler un petit peu de professionnalisme. Je voudrais vous parler de ce livre que vous voyez à l'envers, parce que je n'ai pas réussi à retourner ma caméra, mais bref, vous avez l'idée, vous arrivez à lire si vous avez des miroirs dans les yeux. Ça s'appelle Opération Vasectomie, c'est d'une chercheuse en fait qui s'appelle Elodie Serna aux éditions Libertalia, et je suis tombé dessus un peu par hasard dans ma librairie quartier là à Paris. Apparemment c'est une maison d'édition qui a Montreuil dans la banlieue parisienne, donc. Et en fait elle raconte dans ce bouquin ce qu'elle appelle l'histoire intime et politique d'une contraception au masculin. Je lui avais proposé de venir en fait en introduction avant d'avoir ces deux trubillons là, pour qu'elle puisse mettre un peu de contexte professionnel de façon un peu scientifique, quoi, et qu'on vienne pas juste raconter oh, nous on est passé sur le billard snip snip etc, enfin tu vois, un peu de sérieux. T'es en train quoi, de
dire qu'on n'est pas professionnel, quoi, c'est ça?
Je sais pas, je me casse.
On se lève et on se casse.
Et là Célodie n'était pas là, mais elle m'a proposé qu'on fasse peut-être une interview ensemble hors live. Je pourrais vous mettre à disposition par exemple dans le podcast, par exemple l'histoire de mec, parce que l'histoire de la contraception, enfin j'ai pas tout lu encore le bouquin, mais j'ai lu une centaine de pages, donc à peu près la moitié, et en fait l'histoire de la vasectomie est complètement dingue. La toute première fois qu'elle a été faite, c'était en 1885 en France par un mec qui s'appelle Félix Guyon, et à l'époque il l'utilisait plutôt de manière chirurgique pour soigner l'hypertrophie prostatique, donc une prostate prostate un peu trop grosse. Je te racontais ça un peu, Anthony, hors live, et tu me disais que ça devait être une boucherie.
Je disais oui, qu'effectivement, ça devait bien marcher, vu que le mec devait mourir deux semaines après, donc d'une septicémie sûrement, donc effectivement, ça marchait.
C'est l'effet escompté atteint.
Ouais, carrément. C'était terrible. Elodie donc Cernat raconte dans ce bouquin que la vasectomie a été utilisée à des fins de stérilisation, et notamment aux US, où il y a eu plus de 30 000 personnes qui ont été vasectomisées de force dans les années 1930, notamment sur des personnes pauvres, handicapées, souffrant de maladies mentales, pour l'essentiel afro-américaines, hispaniques, amérindiennes ou immigrées de fraîche date. Donc voilà. Et en fait, ça a continué jusqu'en 1942. Donc c'est vrai que ça ne rigole pas, quoi, la vasectomie à la base. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'à la fin, elle finit par raconter un peu l'histoire un peu plus moderne, notamment dans les années 80 et dans les milieux anarchistes, notamment en France, c'était une vraie décision politique, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'il y a un côté autour de la vasectomie, de la contraception masculine, c'est limite devenu politique avant d'être juste une décision à la base personnelle, quoi. Alors, vous allez me raconter un petit peu quel a été votre parcours à chacun. Peut-être on peut faire un petit tour de table et que vous présentiez un petit peu quel âge vous avez, quelle est votre situation personnelle, familiale, etc. etc. Sans pour autant rentrer dans les détails privés, n'est-ce pas ?
Je suis Anthony, j'ai 36 ans, bientôt 42, et je suis célibataire. Donc ouais, on peut se dire pourquoi il fait ça alors qu'il est célibataire. Contexte familial, j'ai des parents, j'ai une grande sœur, j'ai des nièces.
Quel talent. Merci pour cette précision. Tu vois, le mec, il est synthétique, quoi. Et toi, Mathieu ?
Moi, j'ai 32 ans. Je suis en couple, marié, avec deux enfants.
Okay.
Deux petits-enfants qui ont la plus vieille à un an et demi. Donc,
ah oui ?
C'est encore tout.
Et j'imagine que donc... ah oui, la deuxième à un an et demi. Ok, j'étais en train de me dire, ok, la première à un an et demi, mec, t'as pas chômé, quoi.
Non, non.
Et la première à quel âge ?
3 ans et demi. Donc,
ok. T'as quand même pas chômé. T'as pas... Alors déjà, comment vous avez entendu parler pour la première fois de la vasectomie ?
Moi, je pense que j'ai regardé pendant de nombreuses années le magazine de la santé sur France 5.
Ok.
Et donc, je pense que la première fois où j'ai dû en entendre parler, ça devait être là. Mais voilà, sans forcément ramener ça à moi, tu vois. Enfin, c'est bon, voilà, je savais qu'il y avait un truc qui existait, quoi. Et après, ouais, c'est quand j'en suis venu au féminisme. Voilà, tu parlais un peu politique. Quand j'en suis venu un peu au féminisme, où effectivement, tu te poses des questions et tu te dis, est-ce que la contraception, c'est qu'une histoire de nana, ou est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose ? Donc voilà, après, c'est là que j'ai commencé à gratter un peu plus. J'avais lu ton histoire.
Mais je suis donc influenceur, c'est ça ? C'est ça que
tu
es en train de dire ?
Mais tu veux un influenceur. Voilà, tu cherches, tu es en train de dire voilà, que tu veux être influenceur, mais tu l'es déjà, en fait.
Je veux être influenceur vasectomie, et tôt ou tard, un jour, je le dis là dans ce live, vous proposez un code promo FAB pour avoir moins 20% sur ta vasectomie, quoi. Tu vois, et faire des stories Insta.
Et donc voilà, donc la première fois où j'ai dû en entendre parler, ouais, ça devait être à la télé, du coup, magazine de la santé.
Ok.
Alors moi, j'en avais vaguement entendu parler, mais c'est vrai que ce qui là où ça a vraiment mis plus de lumière, c'est clairement le retour d'expérience.
Ok.
Encore. Et moi, c'était un questionnement autour de pareil, de la contraception, tout ce qui est hormonal, surtout pour ma compagne, et comment on peut reprendre les choses en main de mon côté, quoi.
Ok. Donc c'était une vraie volonté de ta part aussi, quoi.
Ouais, tout à fait. Ouais.
De fermer la boutique. C'est ok, c'est bon. Deux en 4 ans, ça va se calmer, quoi.
Deux, c'est bien, et c'est bien pour mon quota sur la terre, entre guillemets.
T'as fait ta vasectomie quand, toi, Mathieu ?
Eh ben moi, c'est assez récent parce que ça date du mois de mars.
Ok.
2021. C'est assez frais, on va dire.
Ah, t'es encore un bébé vasecto. Oh là là, ça fait plaisir. Et toi, Anthony ?
Bah pareil, en fait, le 31 mars.
Oh !
Donc c'est tout frais.
Machallah. Si vous avez vu mon histoire, vous la connaissez, les mecs, mais pour expliquer un petit peu, moi, mon truc, je crois que la première fois que j'ai entendu parler de vasectomie, je crois qu'en plus, c'était dans cette série avec David Duchovny, qui est assez inégale d'une manière générale, qui s'appelle Californication, où je crois que dans la saison 2 ou la saison 3, au tout début, il fait une vasectomie dans le premier épisode, et ça dure vraiment 10 minutes. Et si tu veux, j'avais ce truc où je me suis dit, mais putain, pourquoi, qu'est-ce qu'il fait? Et il était si je me souviens bien, dans la série, en plus, il était les pieds sur l'étrier, tu vois, en train de se faire snip-snip, et en fait il sort de là, et pendant tout l'épisode, le running gag, c'est qu'il marche un petit peu, tu vois, en canard, quoi. On va en reparler après, mais ça doit vous parler. Et c'était, je crois, en 2014, 2014 ou un truc comme ça. Enfin, je sais même, non, sans doute plus tard, parce que c'est elle est vieille, cette série, en vrai.
Et vu que t'en parles, ça me fait penser, ils en parlent dans Scrubs aussi, bah, donc du coup, qui est une série médicale. Mais dans Scrubs, c'est d'ailleurs un truc assez drôle dans la série, le docteur Cox se fait faire une vasectomie. Et en fait, finalement, sa femme change d'avis, elle revoit un gosse, donc il se refait dévasectomiser, puis revactéser. c'est une blague dans le truc, quoi. Et donc, oui, bah, effectivement, il y a la blague du je marche en canard, quoi.
Le classique.
Mais effectivement, ouais, enfin, tu vois, j'y pensais plus, mais je l'avais vu aussi dans Scrubs. Ouais.
Ah, truc de ouf, hein, vraiment. Attends, j'étais en train de chercher de quand date. C'était 2008, on va dire fin des années 2000-2010, quoi. Ça fait un petit bail. Moi, à la base, le truc. Alors, je sais pas trop, vous allez me raconter un petit peu, mais moi, à la base, le truc, c'était vraiment de me dire que si un jour je refaisais ma vie d'une manière ou d'une autre, je fermais la boutique, quoi, tu vois, et que. Je sais pas, j'avais ce truc, cette intuition en me disant, en fait, si demain je fais une nouvelle. J'ai une nouvelle histoire avec une autre personne. J'ai pas envie que la question vienne sur le tapis. Et en gros, bah voilà, t'auras simplement, je te préviens, t'as un chauve qui tire à blanc, quoi. Tu vois, ça fait partie vraiment du package. Tout ça est inspiré de l'histoire de mon pote là qui est décédé il y a 2 ans, où lui il s'est mis après son divorce avec une nana qui avait, je crois, 17 ans de moins que lui, un truc comme ça. Et en fait, il se passait un truc entre eux parce que lui il lui disait très clairement, moi je veux plus d'enfants, tu vois, parce qu'il avait 2 grands-enfants en plus. Et elle, bien sûr, elle voulait des enfants. Et je crois qu'il y avait entre eux une sorte de, tu vois, de non-dit et d'espoir que l'autre, à un moment donné, change d'avis, quoi, tu vois. Et je trouvais que c'était un peu malsain entre eux. Et je m'étais dit, ok, bah moi, vraiment, c'est un truc que je veux faire. Et donc, est venue ensuite la découverte de la charge mentale, et puis ensuite de la charge mentale autour de la contraception, où je me suis dit, mais ok, en plus, ça peut être un truc qui peut, en plus, permettre à ma femme de faire ce choix de la contraception qu'elle veut, quoi, tu vois. Donc après, elle peut décider ce qu'elle voudra, mais en tout cas, moi, de mon côté, ça sera fini, quoi, terminé. Et donc, j'ai fait ça en février 2019. Voilà, je fête mes 2 ans et quelques mois, quoi.
Waouh, t'as vraiment fêté ça ou pas? Oh non, merde, il y avait le Covid.
Désolé. Mais ça reste une date. Tu vois. Je sais que c'est le 4 février, quoi, tu vois.
Bah, je rebondis sur ce que tu dis et j'ai un peu la même idée, quoi. Je suis célibataire, mais le but, enfin, je vais reprendre de zéro. Je déteste les enfants. Non. Non, le but à la base, moi, la vasectomie, c'est parce que justement, alors, j'ai vu mon médecin généraliste là il y a pas longtemps. Donc je lui ai dit, bah ça y est, au fait, j'ai fait la vasectomie. Ça faisait longtemps que je l'ai pas vu, mon médecin. Et il me dit, ah d'accord. Donc voilà, c'était vraiment décidé tout ça. Je fais ouais. Il me dit, donc vous détestez les gosses. Et je dis au contraire, en fait. Enfin, c'est le contraire. J'aime vraiment les gosses. Et je pense que aujourd'hui, vu le contexte mondial dans lequel on est, et montée du fascisme et compagnie, je trouve ça super égoïste, en fait, de faire des gamins aujourd'hui. Après, voilà, chacun est libre de faire comme il veut. Mais perso, alors, en rajouter, ça me pose problème. Et du coup, dans une relation, c'est ce que tu disais, tu vois, dans une relation, il y a toujours un truc, peut-être qu'il va changer d'avis, peut-être qu'il y a quelque chose. Et donc, en fait, le passage à la vasectomie, moi, c'était vraiment une histoire aussi de dire, ça y est, c'est fini, quoi. Donc, à partir de maintenant, si je rencontre quelqu'un, d'ailleurs, enfin voilà, je suis inscrit sur un site de rencontre et c'est écrit dedans, je ne serai pas le père de tes enfants, quoi, le père biologique de tes enfants. Et j'ai précisé biologique parce que, enfin voilà, après pourquoi pas de l'adoption, ou pourquoi pas si c'est une nana qui a déjà des gosses, voilà, les élever. Ça me pose absolument pas de problème. J'ai pas de problème avec les enfants, mais en rajouter, c'est un problème. Ça met fin à une discussion, quoi. C'est ouais, aujourd'hui, si tu me prends. Je suis chauve et je tire à blanc.
Copier
aussi là-dessus. Ça peut être une manière de dire, voilà, la discussion. Enfin, il y aura pas de discussion finalement, parce que tu te poseras pas la question de est-ce qu'il y a moyen de le faire changer d'avis. Ça sera pas possible, quoi.
Mathieu, de ton côté?
Moi, de mon côté, c'est vrai que il y avait la charge contraceptive. Je trouvais ça hyper hyper important de la prendre aussi de mon côté. C'est vraiment très très important. Et puis le fait aussi, oui, de pas faire, en tout cas de pas avoir la charge d'enfant en plus, entre guillemets, que 2, c'est déjà bien, surtout de rapprocher. Et je voulais éviter le petit 3e, entre guillemets, aussi
par accident,
par nostalgie.
Par
nostalgie de la petite enfance. Non, ouais, je crois que c'était déjà le 2e. Je m'étais posé la question d'un point de vue aussi écologique, d'impact, si faire un 2e enfant c'était important, c'était important. Ce que ça représentait, je trouvais ça que l'enjeu social pour le premier était important aussi, mais mais que c'était ma limite, entre guillemets.
Ok. C'est marrant parce que je crois que c'est... Donc, je fais Histoire de Daron, là, mon podcast. Si vous connaissez pas, j'ai un podcast où je fais parler des pères, de paternité. Et c'est ouf parce que vraiment, cette conscience écologique-là... Alors, le podcast existe depuis bientôt 4 ans maintenant. Mais je crois que sur les deux premières années, c'était un truc dont on parlait très, très peu et qui est vraiment en train de revenir très fort, là. Alors, moi, j'ai des mômes depuis bientôt 15 ans. Et en fait, à l'époque, on n'en parlait pas du tout, quoi, tu vois. Et au contraire, c'était... moi, j'ai toujours souvenir que quand 2005, il y avait encore Claude Allègre qui était sur TF1 pour dire que le changement climatique c'était une connerie, quoi, tu vois. C'est intéressant ce truc de nostalgie de faire un petit dernier pour revenir à la petite enfance, quoi.
Ouais, puis c'est des choses qui se voient quand même fortement, en fait. On voit bien le troisième assez éloigné des deux premiers et moi j'aime bien la petite enfance, mais bon, je suis aussi dans le dur, on va dire, en ce moment. Les deux en bas âge, mais ouais, non, c'était... Il y avait, voilà, un ensemble d'idées qui font que c'était... Pour moi, c'était terminé, quoi.
L'autre jour, je suis allé à la piscine avec mes deux filles, qui maintenant sont grandes, tu vois, et il y avait, le samedi matin, il y avait... alors, c'était avant le Covid, hein, je précise. Mais le samedi matin, il y a les trucs avec les mômes, là, tu sais, les bébés-nageurs, etc.
Bébés-nageurs,
ouais. Et en fait, c'est ouf, parce que je me suis dit, putain, mais c'est canon, ils ont cette capacité... Enfin, tu vois, ils ont ce truc limite animal, tu vois, de pouvoir porter leur môme avec eux, etc. C'est un truc qu'on a beaucoup fait avec mon ex-femme à l'époque. Et c'est vrai que c'est un truc qui me manque, tu vois, ça serait chelou aujourd'hui que je prenne mes gamines comme ça, je dis viens on va faire un câlin tous les deux dans la piscine, c'est sympa, quoi, tu vois, c'est chelou, on veut pas ça. Il y a un côté limite animal, tu vois, que tu perds quand tes mômes grandissent, quoi. Donc intéressant ce truc d'éviter la nostalgie. Je l'avais pas vu comme ça. Comment ça s'est passé la prise de rendez-vous? Quelle a été la démarche pour vous?
Moi, avant le rendez-vous, c'est une question d'ailleurs que je pourrais vous poser à tous les deux. Alors là, je vais faire l'interview. désolé, je te pique pour mon job. Pourquoi choisir une solution définitive aussi? Je sais pas si, alors je peux donner le nom. C'est un documentaire qui s'appelle Le problème du pantalon. Un documentaire fait par Guillaume Leville qui a été diffusé sur France 3.
Okay.
Et qui est super intéressant et qui parle en fait de la vasectomie, du slip chauffant,
ah, yes,
et des piqûres d'hormones, parce qu'il y a les différents trucs, quoi. Avant vraiment de me décider, de me lancer et de prendre rendez-vous, c'est un truc que j'ai regardé et qui était vraiment, vraiment super, quoi. Donc
okay.
Voilà, s'il y a des gens dans le chat ou qu'il y a des gens qui regardent la vidéo qui se posent la question de peut-être pas vasectomie, mais il y a d'autres manières d'être contracepté quand on est un homme. Et il est vraiment, vraiment, vraiment bien. En plus, c'est drôle et tout, donc n'hésitez pas à le regarder, ça passe tout seul.
Okay.
Et donc, après, comment ça s'est passé à partir du moment où moi, j'étais vraiment décidé. Alors, ça faisait déjà des années que j'étais décidé. Moi, le premier truc que j'ai fait, c'est en parler à ma famille, en fait, avant les prises de rendez-vous. Voilà, on avait déjà eu pas mal de discussions avec ma famille sur le fait que je ne voulais pas d'enfant. Ça a été un travail de longue haleine pour essayer d'expliquer pourquoi je voulais pas d'enfant et que c'était pas grave. Mes parents ont eu beaucoup de mal à accepter ça parce que voilà, je suis le seul mec et le nom allait s'arrêter avec moi si jamais je ne faisais pas d'enfant, qui moi me pose aucun problème, mais bon. Pour eux, ça a été, ce que je peux comprendre, pour eux, ça a été un peu compliqué. Donc, ça a été la première partie, voilà, de la vasectomie et de la stérilisation, ça a été ça, en fait. En parler à ma famille. Pour la petite anecdote, hein, ma mère qui un jour m'a dit, discuter tous les deux, on en parlait, et qui m'a dit, je pourrais quand même faire un enfant pour nous faire plaisir, hein. J'ai eu un peu cette réaction là, tu vois. On me dit, mais c'est pas un enfant pour faire plaisir, quoi.
Pour qu'on soit grands-parents, quoi, tu vois, c'est bon.
Surtout pas pour faire plaisir à ma mère, quoi. Faire un gosse pour faire plaisir à ma mère, quoi. C'était un peu chelou. mais en plus, ils sont grands-parents, enfin, tu vois, j'ai deux nièces, okay, qui sont adorables et tout. Donc c'était, voilà, ils sont grands-parents et ils sont très contents, quoi. Donc c'était même pas cette question là.
Okay.
Et donc, ouais, quand j'étais vraiment... Et donc, après, voilà, j'ai parlé vasectomie. Donc, premier truc, c'est je ne veux pas d'enfant. Deuxième, c'est en plus, ça va être définitif parce que vasectomie, quoi. Donc là, ils ont eu du mal. Ils ont encore du mal, d'ailleurs. C'est tabou. Enfin, faut pas en parler, quoi. Et sinon, après, quand je me suis décidé, j'ai essayé de regarder où c'était possible parce que j'en avais parlé à mon médecin généraliste. Et mon médecin généraliste, j'avais peut-être 33 ans, ouais. Donc, je lui avais fait faire un papier. Il m'avait dit, mais vous avez des enfants? Je fais, bah non. Et elle me dit, ah, il m'avait quand même fait un petit papier en disant, voilà, j'ai vu Anthony au jour rendu en consultation, il m'a parlé de la vasectomie. Bon, je vois pas de problème physique qui ferait que ça serait chiant, quoi. Mais... Et donc après, ça a pris du temps, il y a eu le Covid qui est passé par là et tout.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Et puis un jour, enfin, je l'ai fait aussi parce que j'étais dans une relation avec quelqu'un et on n'avait pas parlé encore du sujet des gosses. Ça commençait à devenir sérieux. Et j'ai fait le connard, hein, c'est parce que j'en ai vraiment parlé au dernier moment, ce qui a amené une rupture d'ailleurs, entre autres.
Ça c'est dur.
Mais c'est dur, mais c'est mieux de se séparer pour une raison valable que de se fâcher. Enfin, toi, là c'était une vraie raison. On n'avait pas les mêmes choix de vie dans le futur, donc voilà, ça a été compliqué, mais on l'a fait quand même, quoi. Et donc regarder un petit peu où je pouvais aller pour faire une vasectomie. Et finalement, j'habite en Normandie et le CHU de Caen. Et plutôt réputé, en fait. Ils font des conférences, justement, pour parler de la vasectomie et tout. Donc, je me suis dit, ils ont l'air plutôt ouverts. Donc, j'ai pris rendez-vous au service urologie. Et j'ai vu un chirurgien et ça s'est super mal passé. le mec m'a dit non.
Ah ouais?
Ouais, il m'a expliqué un petit peu. Il m'a dit, voilà, est-ce que vous savez ce que c'est, tout ça? Oui, oui. Donc, j'avais vu leur... J'ai dit, je sais qu'il y a d'autres... Il m'a demandé, est-ce que vous connaissez d'autres manières contraceptives pour les hommes? Donc, évidemment, le préservatif, c'est bien aussi pour les IST. Hein. Mettez des capotes.
Ça, de toute façon, ça empêche pas... Enfin, la vasectomie protège pas des IST. Hein. On va le dire, mais...
Mais voilà, ça permet de protéger aussi des bébés quand on veut pas. Ça marche pour plein de choses, c'est bien. Et donc voilà, j'ai parlé effectivement des slips chauffants, qui ne sont pas des slips chauffants, mais qui remontent les testicules et qui font que les testicules du coup sont à trop de température et ne font plus de spermatozoïdes. Des injections, mais les injections c'est bien, mais ça coûte cher et c'est pas définitif. Et je voulais vraiment quelque chose de définitif. Donc je lui ai bien montré que voilà, je m'étais renseigné et tout. Et le mec m'a dit non, vous avez pas eu d'enfant, vous êtes trop jeune. Donc moi je refuse parce que de toute façon, quand vous aurez 40 ans et que vous trouverez une nanette de 20 ans, bon tu vois. Vous changerez d'avis. Et là, je fais, ok, donc ton plan dans la vie, c'est ça, c'est d'avoir 40 balais et de taper une année de 20 ans. Donc ça l'a pas fait, quoi, parce que enfin le mec me sort un truc comme ça. Il me dit, par contre, j'ai l'oublié. Enfin, non, il m'a dit, par contre, si vous voulez, je peux vous proposer un rendez-vous avec un de mes collègues. Et bon, c'est rigolo parce que après, j'ai un peu discuté avec d'autres gens et il a l'obligation de le faire. En fait, si lui refuse, il a l'obligation de te présenter un autre collègue. Et donc voilà, j'ai attendu parce que c'était un mois après, il a fallu que je reprenne rendez-vous. C'était un mois après et j'y suis retourné et contact super avec l'autre chirurgien et donc finalement j'étais plutôt gagnant et lui il m'a dit bah voilà quoi, je vois bien que votre décision elle est prise, que vous vous êtes renseigné sur toutes les techniques qu'il pouvait y avoir, vous m'avez l'air bien dans votre tête, c'est pour moi c'est ok quoi, non mais donc voilà, après il y a le délai légal et puis
le délai légal qui est de 4 mois, il faut le dire,
de 4 mois, ouais.
Je me suis renseigné, la vasectomie n'était pas légale en France avant 2001.
Ah ouais.
C'était considéré comme une mutilation, quoi, corporelle. Aujourd'hui, simplement, la loi t'oblige à respecter un délai de réflexion de 4 mois. Donc entre le premier rendez-vous chez le chirurgien, comme celui que tu as eu là, et l'intervention. Donc il faut quand même le savoir, c'est que je le raconterai un petit peu après. Mais pour moi, ça a été un gros frein. C'est-à-dire que je crois que si j'étais venu le jour même et que je leur avais dit, écoute, j'ai deux enfants, mec, qui sont des grandes personnes, et en fait, j'en veux plus maintenant, et qui m'avait dit, ok, pas de problème, baisse ton slip, let's go, snip, snip, tu vois. Je crois que vraiment, ça se serait fait comme ça, quoi. J'aurais même pas eu le temps de réfléchir, parce que j'avais pris ma décision, en fait, tu vois. Mais c'était plutôt l'idée, à un moment donné, après, de se faire couper les couilles, ça se passe pas comme ça, hein. C'est pas une castration, hein. C'est pas une ablation des testicules, mais c'est pour l'image, n'est-ce pas?
Non, non, ils prennent deux pierres, ils le font avec deux pierres. Pour rassurer les gens, allez-y, hein, c'est parfait.
C'est super, on adore. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vient témoigner aujourd'hui. Alors il faut savoir que c'est pareil pour la ligature des trompes pour les femmes qui décident de se faire stériliser également. T'as des chirurgiens qui veulent pas. Faut avoir un bon petit carnet d'adresses. Et je crois que c'est d'autant plus dur effectivement pour les nullipares, c'est-à-dire pour les gens qui ont jamais eu d'enfant, quoi. Parce que tu peux tomber sur un chirurgien qui dit moi je veux pas prendre cette responsabilité là. Enfin c'est vraiment étrange.
Et j'ai du bol parce que enfin tu vois le premier a dit non sur des motifs fallacieux, quoi. Le deuxième m'a dit ok, il y a pas de problème. En dehors de ça, le contact est passé vachement mieux avec le deuxième en plus. Il avait l'air plus souriant malgré le masque. Ils peuvent s'opposer tout ça, alors que enfin légalement normalement ils devraient pas pouvoir, quoi. Mais
et quand j'ai publié mon témoignage à l'époque sur Mademoiselle, il y a eu plein de gens qui, alors des femmes comme des hommes, qui racontaient qu'elles avaient, elles ou ils n'avaient pas réussi à trouver de chirurgien pour se faire opérer, quoi, tu vois, comme quoi c'est pas forcément évident, quoi.
Si, ouais, si je dis pas de bêtises, il y a des groupes, il y a un groupe Facebook qui est revenu, qui liste entre guillemets les chirurgiens qui acceptent d'intervenir. Faudrait que je regarde. Je sais qu'en ce moment il a été un peu verrouillé parce que il y a eu pas mal de demandes, et donc du coup les gens filtrent les entrées pour éviter d'avoir trop de journalistes ou des personnes en tout cas pas très bien intentionnées qui viennent envahir ce groupe là.
Il faut vraiment juste avoir la bonne personne sous la main, quoi, tu vois, et que ça pour le coup c'est un truc. Moi je sais que j'ai des amis qui se sont fait opérer, des amis IES, et qui refilent le nom de leur chirurgien et ou de leur chirurgienne d'ailleurs à des potes, quoi. Ça, donc ça se passe un peu sous le manteau, quoi.
C'est Fénor qui explique qu'on comprend pas pourquoi on veut pas faire de prélèvement tu veux pas faire de prélèvement au cas où. Ah oui, c'est quelque chose aussi qu'on vous propose.
On te l'a proposé, toi?
Ah ouais, normalement c'est censé être obligatoire, donc si on l'a pas fait, c'est quand le chirurgien dit bah ok, c'est par contre on a une petite plaquette d'information qui vous dit bah voilà, ça serait quand même bien que vous fassiez un prélèvement de spermatozoïdes pour qu'on les conserve au cas où voilà, vous changeriez d'avis. Mais voilà, il n'y a rien de forcé, et c'est une décision perso à faire, et c'est des démarches d'ailleurs perso à faire, c'est pas... moi le CHU m'a dit voilà, on file la plaquette, on vous file un numéro, maintenant à vous de le faire si vous voulez, okay. Et voilà, personnellement je l'ai pas fait.
Pour rebondir, moi on me l'a pas proposé du coup la conservation personnelle.
Moi non plus, hein, vraiment. Hein.
Ouais, moi c'est quelque chose qu'on m'a pas du tout. Par contre, moi j'ai fait une démarche avant du coup de don de sperme, avant la vasectomie. C'est vraiment quelque chose qui est assez simple à faire, qui prend 4 rendez-vous d'une heure chacun. Et il manque beaucoup, beaucoup de donneurs en fait, surtout des donneurs mecs. Il y a plus de nanas alors que l'opération est. L'opération. Ouais, c'est plus lourd, il y a une stimulation hormonale, tout ça. Pour les mecs, c'est... Ouais,
tu te branles dans un gobelet, quoi, tu vois.
C'est ça. Il y a des petits rendez-vous avant, des rendez-vous, voilà, pour savoir si on a des IST, si, voilà, il y a un petit contrôle de bonne santé, entre guillemets, un petit contrôle au niveau génétique. En fait, ils essayent de faire une espèce de patrimoine génétique pour voir avec la personne qui va recevoir ce don-là, pour pas qu'il y ait de facteurs génétiques qui soient trop qui soient convergents entre guillemets, voilà, pour pas qu'il y ait de problème après pour les personnes qui reçoivent ce don là. Et ça se passe vraiment hyper c'est plutôt rapide, et c'est quelque chose, je pense, qu'il faut diffuser aussi cette parole entre guillemets du don, parce que c'est pas grand chose à faire entre guillemets, c'est gratuit, et je pense que ça peut rendre service à bien nombre de cellules familiales qui veulent avoir des enfants, et il leur manque un peu de matériel génétique entre guillemets, quoi.
Ouais. Et moi aussi, alors, qu'il y avait un aspect perso, c'est ça, de ton côté?
Ouais, moi je l'ai fait parce que moi je suis issu aussi d'un don de sperme, donc c'était un peu le retour de tout ça, voilà, c'était la boucle
du berger, hein. À la bergère, ou je sais pas.
Exactement. on boucle la boucle, et je trouvais ça plutôt intéressant, à savoir qu'en plus on peut pas faire un nombre indéfini de dons, c'est 4 fois, et après c'est terminé, hein. donc voilà, c'est un petit geste entre guillemets gratuit qui peut être plutôt pas mal. Ouais. Que ce soit avant vasectomie ou pas, quoi.
Oui, t'es pas obligé de le faire avant une vasectomie, tu peux le faire si tu décides de pas te faire vasectomiser, quoi.
C'est ça, tout à fait.
Après, déjà, de toute façon, c'est mort. Hein, mais...
Après, c'est plus compliqué.
mais c'est bien que tu le rappelles, ouais, qu'il y a, quand tu fais un don de gamètes, voilà, c'est utilisé qu'un certain nombre de fois pour éviter justement que quand t'as 40 ans et que tu tapes une nanette de 20 ans, ça puisse être une de tes filles, quoi. Donc, ça peut arriver.
Sachant quoi, en France, à l'heure actuelle, du coup, le don est anonyme. Et il y a zéro information qui remonte auprès auprès de l'enfant. La loi de biomédecine est en train d'évoluer. Il y aura possibilité du coup pour le donneur de, s'il souhaite, de pouvoir laisser ses coordonnées pour être recontacté par la suite. Mais ça, c'est vraiment la volonté du donneur, et ce sera aux 18 ans du coup de l'enfant, en fait. Donc après, ça, c'est un choix complètement personnel, et ça peut être aussi pour permettre à certains enfants qui ont besoin de connaître peut-être un peu plus une origine génétique d'avoir plus d'informations, mais c'est quelque chose qui est pas encore passé et qui est vraiment volontaire. Ce sera au choix du donneur, quoi. C'est pas quelque chose qui sera obligatoire. À savoir qu'en France aussi, c'est gratuit, contrairement à d'autres pays en tout cas où c'est rémunéré. C'est complètement gratuit. C'est pas monnayé, quoi.
C'est le don de soi.
Des dons en France, ouais.
Les frais sont pris en charge. Si t'as besoin de venir, de prendre le train pour venir, ça peut être pris en charge. Il y a vraiment des trucs. Faut pas que ce soit un frein financier pour la personne qui veut faire un don, même si c'est un peu loin de chez lui, quoi.
Ok, non mais c'est ok. Bah merci en tout cas de poser ça là. C'est cool de se rendre compte en plus que pour toi il y avait aussi une dimension personnelle de pouvoir rendre ça. Mais effectivement, moi en y réfléchissant un peu, je me dis mais je crois pas que qui m'est proposé, tu vois, de garder mon sperme ou enfin même pas de garder mon sperme, en fait de le donner, parce que c'est différent en fait. Parce que pour moi, peut-être il m'a dit est-ce que vous voulez garder un échantillon, mais en fait pour moi la démarche n'est pas la même. S'il m'avait dit vous avez la possibilité aujourd'hui de faire un don de sperme, mais ça m'est même pas venu à l'esprit, tu vois, c'était il y a 2 ans en plus. S'il m'avait dit bah vous avez cette possibilité là de le faire, je crois qu'en fait en vrai je l'aurais fait, quoi, tu vois. C'est pas très très compliqué comme tu dis. En revanche, de garder du sperme à moi perso au chaud pour si un jour je change d'avis, ça c'est sûr et non que j'ai dit non, tu vois.
Enfin, au froid du coup,
au froid.
tu gardes des choses plutôt que de payer, parce que ça coûte cher en plus, hein, de le faire conserver.
Et ah oui, c'est vrai.
J'en ai fait à la maison dans les petits cubes.
Qui sert à l'apéro.
Faut pas se confondre.
Faut pas se tromper.
L'apéro avec les glaçons, quoi.
Comment c'est. Et donc, toi, Mathieu, de ton côté, comment ça s'est passé avec le chirurgien?
Avec le chien. Alors, petite info assez fun, entre guillemets, qui m'a bloqué pendant pas mal de temps à aller sur la vasectomie, c'est que ma conjointe étant vétérinaire, j'ai pu assister à de nombreuses fois à des castrations. Et c'est une image qui est très très loin de la vasectomie chez l'humain, mais du coup ça m'a un peu bloqué. J'avais un peu cette image de ma compagne en train d'exercer ce mouvement chez l'espèce, chez les chiens, les chats. Ouais, j'ai eu un petit gap mental à faire, quoi.
Yeah. Bah ouais, je te comprends. Bah moi je le racontais un peu dans mon témoignage, mais le chirurgien était vraiment très cool, hein. Mais il m'a montré un peu comment ça se passait. Et je crois que c'est pareil, il aurait pas dû me montrer, quoi, tu vois. S'il m'avait expliqué, je me suis fait opérer des yeux, tu sais, de la myopie. S'il m'avait expliqué, alors il m'a expliqué très clairement ce que ça allait faire, tu vois. Mais s'il m'avait montré ce qu'ils allaient faire, tu vois, j'aurais fait ah ben non, je crois pas. On va vous ouvrir la cornée, ça m'intéresse pas. Et là il m'a pris le canal déférent, tu vois. Il m'a fait, voyez, c'est là qu'on va couper. Il m'a tiré dessus, j'ai fait ah shit, non, ça ne m'intéresse finalement, je crois pas tout de suite, vraiment. Je sais pas comment ça s'est passé pour vous, est-ce qu'ils vous ont mis en situation?
Pas du tout. Alors moi du coup, prise de rendez-vous assez facile. J'avais appelé le CHU en public, mais ils le faisaient pas, donc je suis passé par une clinique privée. Pour autant, ils m'ont expliqué très vite fait les articles de loi, et puis ça a été. Il m'a demandé si j'avais besoin de plus de précisions, mais je m'étais plutôt bien renseigné, et donc du coup, pas plus que ça. Et même sur le deuxième rendez-vous pour programmer l'opération, moi j'ai pas eu de manipulation, on peut dire.
Est-ce que c'était, je sais pas si c'était une façon pour lui, tu vois, je me suis demandé après, est-ce que c'était une façon comme une autre de venir dire bah tu vois, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble, et donc l'air de rien peut-être de te dissuader un peu, quoi, tu vois, je sais pas. Pardon, je t'ai coupé.
Ouais, mais même moi ça m'a étonné du coup qu'on m'ausculte pas, entre guillemets, et qu'on j'étais un peu étonné, quoi.
Je peux pas te montrer ma bite, comment ça, qu'est-ce qui se passe? J'étais venu pour ça, moi, à la base.
Mathieu qui arrive, qui baisse directement son ben, tu vois. Habillez-vous, quoi.
Non mais c'est vrai que je faisais un peu le parallèle avec les gynécos où très rapidement il peut y avoir une manip, quoi. Là, rien du tout, quoi. Franchement, j'aurais fait en visio, c'était la même, quoi. Et ça m'avait un peu surpris. Je m'étais préparé psychologiquement quand même à dire oui, je suis un homme, j'ai jamais montré mon appareil génital à un médecin.
Ah ouais, jamais.
Ça y est, jamais. Si, peut-être quand j'étais petit, une fois, tu vois, quand un médecin scolaire, peut-être une fois où il te vérifie quand t'es en. Quand tu dois être en CP, quand t'as 6-7 ans, si tout va bien, mais sinon, rien du tout, quoi.
Pareil, ouais. C'était la première fois que je me déshabillais. Enfin, puis moi, c'était pas à la consultation. La consultation, c'est pareil, j'ai rien eu. Et moi, je suis plus vicieux. Il m'a pas montré, il m'a pas expliqué. Moi, je suis plus vicieux. J'avais été voir des vidéos avant.
Oh non, mais... Mais non, mais pourquoi?
Mais si, mais moi, enfin, ce que je te dis tout à l'heure, voilà, c'est des années de magazines de la santé, hein, des trucs dégueulasses, j'en ai vu. Et donc, je suis allé voir. Ben non, mais c'est intéressant. C'est intéressant de les voir faire une petite incision, sortir le canal déférent, le couper, c'est trop rigolo. Donc, j'avais été voir avant. Donc, finalement, voilà, qu'ils m'auscultent pas et tout, ça m'a pas trop dérangé. Quoi.
Et t'y allais après ça?
Ah bah ouais.
Enfin moi je crois que j'y serais pas allé hein, vraiment.
J'ai globalement confiance en des gens qui font 10 ans d'études pour arriver à ce niveau-là, tu vois. Et, donc oui, ça me posait pas de problème quoi. C'est la première fois de ma vie d'adulte ouais que je me déshabillais devant des médecins quoi. Et putain. Et le jour de l'opération, il y a un paquet de gens qui sont entrés dans le bloc, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ma bite.
Voilà. J'étais anesthésié, je fais une anesthésie générale. Oh. Et donc du coup.
Tu peux faire ça.
Moi, on m'a même pas proposé de faire en local. Hein. C'était général direct, quoi.
Ah là, j'avoue, je suis jaloux. Hein.
Et du coup, je n'ai même pas d'image que quelqu'un regarde mon appareil génital, quoi. Il n'y a rien du tout.
T'es un peu triste, et, non
presque, presque. J'espère qu'au contrôle, il va regarder quand même.
Ah oui, c'est vrai que vous ne s'est pas encore passé de ce fait-là pour vous.
Non. Ça...
Ah, je vais vous spoiler le spermogramme. C'est vrai, je suis bête.
Ouais, alors moi avec le don de sperme, j'ai eu le droit à 4 reprises et je suis rodé maintenant.
Il y va, il est connu maintenant, tout le monde lui tape dans le dos en tout. Bah, j'ai eu un rendez-vous en visio avec l'anesthésiste. Je lui ai posé la question et je fais c'est anesthésie générale ou pas? Il m'a dit ah bah comme vous préférez en fait. Donc c'est soit rachianesthésie, donc une péridurale en gros, ou alors générale. J'ai jamais été opéré de ma vie en fait moi. Donc la générale, ça me disait pas trop. En plus pour une opération qui prend 10 minutes quoi, donc ça me faisait chier de faire anesthésie générale, d'être dans le gaz et tout au réveil. Donc finalement, c'est moi qui ai demandé rachianesthésie quoi. Bah ouais, il y en a. Tu vois, moi je regarde des vidéos et je demande à être réveillé quand il me triture les couilles. Hein,
alors bon, pour ma part, j'avais fait une coloscopie il y a quelques années et ça aussi c'était la coloscopie, c'est du gros bonheur. Franchement, pas la coloscopie, parce qu'effectivement, ça, c'est anesthésie générale. Tu sens pas quand ils viennent te coller la caméra dans le cul, etc. Ça, tu t'oublies, tu l'as pas en tête. Et heureusement, en revanche, la préparation à la coloscopie, ça, c'est un grand moment d'humanité. Franchement, t'es biais. Mais bref, tout ça pour dire que moi, il m'a pas proposé. Et en fait, à la fin même du truc, il m'a dit, mais on est bien d'accord que ça mérite pas vraiment une anesthésie générale, non, en local c'est bien. Aujourd'hui, je lui dirais, non mec, franchement, est-ce que je peux oublier? Est-ce que je peux, que ça peut sortir la sensation de, t'es en train de me tirer sur les couilles, tu vois. Franchement, je le prends, j'achète tous les jours. Je sais pas comment tu l'as vécu toi, Anthony, de ton côté, mais.
Ben, en plus, tu sais que j'avais ce truc parce que bon, j'ai regardé des vidéos, mais en plus, j'avais ton témoignage justement. Tu disais que tu sentais que il t'avait bien tiré sur les couilles, quoi. Donc j'avais vraiment tout ça en tête moi quand je l'ai fait. Et non, enfin moi, honnêtement, ça s'est super bien passé, quoi. Donc c'était en ambu.
T'as pris une péridurale, c'est-à-dire ils t'ont piqué dans le dos?
Ouais, ils m'ont piqué dans le dos. Hein.
Ah mais alors moi pas du tout. Hein. Moi il m'a
moi, vraiment il m'a... local quoi.
Moi il m'a piqué les couilles.
Est-ce que t'as entendu de faire ça fait claque à un moment ou pas?
Non mais il m'a vraiment piqué les couilles. Hein. Et d'abord un côté, puis après de l'autre quoi tu vois.
Ah ouais d'accord.
Ah on n'a pas c'est non, ouf non. On est trois, on n'a pas du tout le.
Pas eu la même technique ouais.
Moi j'ai eu juste un petit masque qui m'a fait respirer et il m'a poussé un
alors
truc.
Alors toi dedans. J'ai presque envie de te dire allez ça dégage Mathieu, allez hop barre-toi.
T'es pas un vrai toi. Si t'as pas vécu le truc, mais alors ça va peut-être vous faire marrer. Moi c'est, honnêtement c'était une bonne expérience. J'ai trouvé ça fun. Et pourtant, ça commençait mal. En fait, le chirurgien qui m'avait vu finalement était pas dispo au jour-là, donc j'avais peur en fait de me retrouver avec le premier connard qui avait pas voulu, en me disant il va faire exprès de me charcuter ce con parce qu'il voulait pas. Et pas du tout. Et donc voilà, j'étais pris en charge par l'anesthésiste, mec super sympa. On est arrivé au bloc. Donc pour moi, c'était un petit peu impressionnant, quoi. C'est la première fois que je me faisais opérer, donc première fois que je voyais un bloc et tout. Et donc, il commence à m'installer justement pour me faire la rachianesthésie. Donc il y avait les infirmières et il y avait l'anesthésiste. Et il y a un mec qui débarque. Et qui me dit bah c'est moi qui vous opérez et vous avez de la chance, je suis le professeur. Donc moi j'ai même pas le chirurgien, j'ai été opéré par le
par
professeur.
Le boss.
Ouais, par le boss quoi. Et bon, n'écoutant que mon courage et mon humour de merde, donc lui très content dit voilà, vous avez de la chance quand même, c'est le professeur qui vous opère. Et moi de lui dire bah peut-être, je sais pas, peut-être que l'élève a dépassé le maître maintenant quoi. Et l'anesthésiste me regarde, commence à se marrer en me disant, c'est le genre de truc qu'on dit après l'opération généralement. Et l'infirmière qui était bidonnée à côté. Et le professeur n'a pas moufté, il a rien répondu à ça. Et donc voilà, ils m'ont fait la piqûre. Après, ils ont testé si j'avais des sensations dans les jambes. Donc j'avais plus du tout de sensations dans les jambes.
Mais putain, mais merde. Donc ouais, forcément, t'as rien senti.
Alors, rien, pas totalement. Ils ont mis le chant et ils m'ont demandé si je voulais de la musique. Et j'ai dit bah non, on peut discuter si vous êtes là. Donc j'ai discuté un peu avec l'anesthésiste. Ils m'ont demandé ce que je faisais un peu dans la vie, ce que j'aimais faire. Donc j'ai parlé des jeux vidéo, j'ai parlé de Twitch. Il y a une infirmière qui m'a dit ah bah je regarde des streams sur Twitch et tout. Donc elle a pris mon nom et le soir quand je suis rentré chez moi, j'avais un nouveau follow sur ma chaîne Twitch. Donc c'est l'une des rares personnes qui a vu ma bite avant de voir mes streams. J'en suis très content.
C'est comme
donc,
ouais. Excuse-moi si je te coupe, mais c'est Joyka qui raconte justement dans sa vidéo, parce que lui il a 4,5 millions d'abonnés si tu veux, que la meuf il se retrouve à poil total si tu veux, à se faire balader dans les urgences quoi, et il y a 5 meufs et il dit mais c'est sûr en fait, enfin tu vois il y en a une notamment qui lui fait une vanne sur je sais pas si vous avez vu cette vidéo avec McFly et Cardito, ils vont lui acheter une maison complètement niquée à Bizneuil etc, la meuf elle lui fait une ref là-dessus et lui il est là, ah putain je viens de te dire que j'avais mal aux couilles, et mais vraiment c'est impossible tu vois dans leur vie de se retrouver dans des situations comme ça et de pas avoir là pour le coup tu vois toi tu l'as fait à l'envers. Mais cool.
Ouais, c'était à l'envers. Moi, elle me connaissait pas. Je lui ai dit, allez-y, venez me voir. Donc, c'est pour ça que je vous dis, en fait, moi, j'ai passé un moment plutôt agréable. Donc, voilà, on discutait tout ça avec l'anesthésiste, avec les infirmières. C'était vraiment bon enfant, quoi. Il y a des gens qui rentraient dans le blog. Donc, c'est pour ça que je dis que je pense qu'il y a beaucoup de gens. Il y a l'anesthésiste qui s'est excusé quand même en disant, je suis désolé. Il y a beaucoup de gens qui sont passés aujourd'hui. C'est pas grave. Hein, je suis à poil. Et à un moment, quand même, je trouvais que ça commençait à durer. Il me semblait que c'était plus court que ça, quoi. Et je demande, je fais, ça se passe bien? Et donc j'avais le champ stérile, j'étais allongé, j'avais le champ stérile en fait, donc je voyais pas du tout ce qui se passait quoi. Et le professeur du coup qui me dit, ah on a eu un petit problème. Et il me dit, en fait il y a la pince qui tient le canal, parce que c'est un peu élastique ces conneries là en fait, c'est la pince qui tient le canal en fait à lâcher. Et donc vu que c'est élastique, le canal a fait, je rentre. Donc il me dit, on est en train d'essayer de le retrouver quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que je sentais que ça tirait un petit peu, mais c'était pas douloureux en fait. J'ai pas eu mal du tout, mais effectivement c'est ce que t'expliquais en fait Fab, tu sens un peu la traction. T'as pas de douleur, mais tu sens qu'il y a un truc qui est tiré quoi. Et donc voilà, ils ont réussi à le retrouver, tout cautérisé, à tout suturer, à tout remettre à l'intérieur. Dans le bon ordre.
Ce qui est une bonne nouvelle.
Ouais. Enfin, moi, voilà, l'expérience, j'en ai une bonne expérience, en fait, parce que, le personnel soignant était vraiment adorable, du début à la fin. Vraiment, tout le monde était super sympa. Pendant le bloc, ça s'est plutôt bien passé. Truc rigolo d'être complètement paralysé des membres inférieurs, c'est qu'on sort du bloc et l'anesthésiste me dit, allez-y, essayez de bouger les doigts de pied. Alors, je me concentre, j'y arrive pas. Je dis, non, ça marche pas. Il me dit, allez-y, essayez de soulever le genou. Je dis, non, ça marche pas non plus. Et là, il me dit, levez-vous un petit peu, quoi. Et j'avais le genou plié à 90 degrés. En fait, on ne sent absolument plus rien, mais par contre, on peut toujours contrôler ses mouvements, quoi. Et il m'a dit, d'ailleurs, quand on vous demande de faire des tests, faites-le doucement parce qu'il y a moyen que le genou parte très vite et que vous le preniez, en fait. Donc, voilà, c'était une sensation rigolote. Après, je me suis retrouvé en salle de réveil avec un mec qui avait fait une anesthésie générale, justement, et qui racontait des conneries. J'étais mort de rire.
Il était stone.
Ah ouais, non, il était défoncé, quoi. Et moi, j'étais en train de me bidonner à côté avec mes jambes paralysées, quoi. Mais ouais, non, tout le monde était super sympa et tout. Donc, enfin, non, j'ai vraiment passé un bon moment.
Putain, je suis scotché parce que moi, je suis venu, ils m'ont opéré en un quart d'heure et je suis reparti aussi vite, quoi. Le mec m'a dit, ouais, pour la vasectomie, vous venez à vélo, vous repartez à vélo, quoi.
Un vélo sans selle, alors.
Mais ceci dit, après la, enfin vraiment un quart d'heure après, j'aurais pu, enfin j'avais pas mal parce que l'anesthésie faisait encore le taf quoi. Mais en revanche, il m'a piqué deux fois. Il m'a piqué une fois à droite, une fois à gauche. Et en fait, c'est pareil que tu vois, s'il m'avait fait les deux en même temps, j'ai fait ça aussi avec les yeux. L'opération des yeux, il m'avait d'abord fait le droit puis après le gauche. C'est une connerie vraiment parce que la deuxième fois, j'appréhendais beaucoup plus que la première fois. J'aurais bien aimé qu'il me fasse les deux. Et là, c'était ça en fait. Je lui ai dit, mais pourquoi? Ah oui, c'est vrai que une fois que t'as fini la première fois, il faut faire la deuxième, quoi. J'ai failli tomber dans les pommes, en fait, parce que vraiment, ça tirait fort, ça me faisait mal, en fait. Je crois que l'anesthésie, je suis pas sûr qu'elle ait très très bien marché, en fait.
Bah, anesthésie locale, ouais, non, ça me paraît pas ouf, quoi. Il y a Certificateur qui est médecin généraliste, hein, dans le chat, qui disait que voilà, ça le choquait, quoi, que t'aies eu qu'une locale, quoi.
Oui, apparemment, les gens m'ont dit que je me suis fait arnaque. Écoutez,
T'as fait ça où, tiens, d'ailleurs, toi, c'était en clinique ou c'était...
Ouais, en clinique privée, quoi.
Ok. Tu vois, on est mieux servi dans le public. Hein.
Bah, apparemment, ouais. Mais ceci dit, c'était l'urologue du quartier, tu vois. Mon ex, elle lui avait vendu une maison, si tu veux. Donc, elle le connaissait bien. Enfin, tu vois, il y avait un truc. Il était sympa en plus, tu vois. Mais c'est vrai que c'était. C'est ok, bah, c'est étonnant. Ok, bon, alors, toi, Mathieu, pour le coup, toi, tu te souviens de rien, quoi. Toi, t'es là.
Non, non. Bah, anesthésie, puis tu te réveilles gentiment dans le gaz en salle de réveil, quoi. Et puis, t'essayes de comprendre ce qui se passe un peu. Mais ouais, non, franchement, là-dessus, tu sais pas, quoi.
Pardon, il y a Guigui qui dit quand ça te tire les couilles et que t'as les paupières qui viennent avec, il y a arnaque.
Ah là là, la meilleure. Un truc, ouais, qui a été désagréable, moi. Donc déjà, bon, faut attendre que, évidemment, la sensation revienne dans les jambes. Ils te demandent de faire pipi. Avant de partir, pour être sûr que tu ressens justement et que tu arrives à faire pipi et caca tranquillement. Mais le truc le plus désagréable, c'est quand mon cul était plus anesthésié, ça m'a cramé le cul, mais un truc mais monstrueux.
Comment
en fait,
ça
c'est ma sœur qui m'a en fait une sensation de chaleur en fait. Et au moment où ça revient en fait, où les sensations reviennent, mais je m'y attendais pas. Et on était dans la voiture avec ma sœur, c'est ma sœur qui m'a emmené, merci encore elle. Et à un moment, je lui dis, mais t'as mis les sièges chauffants ou quoi dans la bagnole? Elle me dit, mais non, j'ai pas les sièges chauffants. Et j'ai le cul qui m'a brûlé, mais pendant 20 minutes. Ça a été le seul moment vraiment désagréable, en fait, c'est le cul qui me brûlait dans la bagnole quand tout est revenu, quoi.
C'est vrai qu'il y a Guigui qui demande, est-ce que Mathieu, tu t'es touché les couilles pour voir s'ils étaient encore là?
Non, mais j'ai regardé quand même. Quand je suis rentré, quand je suis retourné dans la chambre, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? À y repenser, je sais pas si. Bah, l'anesthésie générale, c'était bien. C'était une bonne chose, je pense.
T'es pas sûr ou tu te dis que c'était une bonne chose pour toi?
Si, je pense que c'était une bonne chose. Après, c'est vrai que j'avais en référence plutôt ce qui s'était passé pour toi, Fab. Ça me paraissait pas mal, du coup, la générale.
Bah ouais, putain. Mais moi, pour le coup, pendant une semaine, t'as cette sensation étrange. Dès que je me tenais droit. C'était débile, mais je sais pas après si c'est psychosomatique ou pas, mais dès que je me tenais droit, en fait, ça me tirait dans les couilles. Et donc, dès que je me penchais un peu, en revanche, ça allait mieux. C'était débile. Je sais pas pour vous comment ça s'est passé.
Et bah moi, aucune douleur, mais vraiment rien. De la gêne un peu, donc effectivement, ouais, marcher un peu en canard et faire gaffe, quoi. Mais vraiment aucune douleur, quoi. Pas du tout, par exemple, sur les cicatrices. Alors, j'ai eu deux points de chaque côté, et sur les cicatrices, mais absolument aucune douleur, quoi. Donc en fait, c'était plus de la retenue que j'avais en me disant voilà, faut pas que je fasse le con, j'ai pas envie de me déglinguer les couilles. Mais finalement, en fait, j'aurais pu vivre normalement dès le lendemain, quoi, sans me poser de questions. Et je suis informaticien, je reste assis toute la journée, et le fait d'être resté assis me posait aucun problème. Là, j'ai repris la course il y a pas longtemps, ça me gêne pas. Donc de temps en temps, effectivement, un peu de gêne dans les testicules, c'est encore un peu sensible au toucher, mais pas douloureux, quoi, en fait. Donc j'ai eu aucune douleur, mais même pas en sorte, même pas quand ça s'est réveillé, quand j'étais encore à l'hosto. D'ailleurs, il m'avait fait des prescriptions pour des antalgiques, et je suis même pas allé les chercher, en fait, parce que pas d'intérêt.
Là, vous parliez de deux incisions. Moi, j'ai eu qu'une incision.
Quoi?
Ouais,
une grosse. Ils ont vraiment tout enlevé.
J'ai eu deux points, trois points, et vraiment sur la ligne.
Mais t'as arnaqué, hein.
La ligne médiane.
La ligne médiane.
Ah, ils ont coupé dans le milieu et ils sont allés chercher à gauche et à droite, toi.
Ouais, c'est ça. Ouais.
On a vraiment trois histoires complètement différentes. Hein.
C'est génial. Ah oui, parce qu'en fait, j'imagine que c'est plus simple. T'es endormi. Enfin, tu vois, c'est.
Ah, je pense que du coup c'est plus simple pour eux pour te bosser, ouais, je pense. Mais je pense qu'il existe aussi différentes techniques. Le canal, ils viennent le fixer après. Bah, les canaux, du coup, ils viennent les fixer. Et donc je pense que voilà, le fait d'avoir un seul endroit à fixer, c'est peut-être aussi une méthode qui leur convient mieux, en tout cas. Il y a moins de fils aussi.
Alors j'ai lu aussi qu'il y avait une technique maintenant vraiment où ils font une incision vraiment ridiculement petite. Ils sortaient vraiment le canal. Ils faisaient tout à l'extérieur et après ils remettent tout dedans. Et c'est des opérations, ça, où il n'y a même pas de poids, en fait. Parce que l'incision est tellement petite que ça se referme naturellement et qu'il n'y a pas de problème. Enfin, il y a moins de problèmes. Parce que voilà, mettre un fil, bon, ça peut entraîner des problèmes quand même. Le truc est tellement petit que derrière, vous n'avez même pas de suture, quoi.
Ah, ok. Écoute, c'est le moment. C'est vrai que je n'ai pas montré encore ce que c'est qu'une vasectomie. J'aurais dû le montrer au départ. J'ai un peu zappé. C'est le moment où je risque ma chaîne.
Attendez,
Twitch.
Je vais vous montrer. Non. C'est pas ma chaîne, c'est pas grave. C'est pas grave, je peux, là.
Peut-être je risque le ban, hein. On sait pas. Voilà. Mais voilà à quoi ça ressemble. une vasectomie, c'est que en gros il y a le zizi, n'est-ce pas, les testicules, et là c'est ce qu'on appelle les canaux déférents qui remontent au-dessus de la vessie jusqu'à la prostate et qui redescendent après dans l'urètre, et donc ils viennent couper ces deux canaux, n'est-ce pas, ce qui fait que il faut bien expliquer aux gens qui souhaitent continuer à éjaculer avec force, virilité, n'est-ce pas, que le sperme reste ne bouge pas en fait, parce que en gros les spermatozoïdes c'est que 3% du liquide spermatique, n'est-ce pas, c'est vraiment très très peu, de un très petit pourcentage.
On reste très viril après la vasectomie. Aucun problème de virilité.
Non mais moi c'est une question qui m'a été posée, mais combien de... c'est là qu'on voit qu'il y a un manque en fait d'informations au niveau de la vasectomie en France. C'est parce que le nombre de potes, mais des potes jeunes, enfin voilà, c'est qui m'ont demandé à tâtons en plus. C'est ça, ils osent même pas demander. Mais la question c'est, mais sinon tu,
c'est toujours pareil.
Oui, je lâche toujours la purée. Oui. Ne t'inquiète pas. A priori, en termes de texture et de goût, ça ne change rien du tout. mais ouais, en fait, c'est une des grandes peurs des mecs sur la vasectomie, c'est est-ce que je vais éjaculer en fait derrière. Faut le dire tout de suite, il n'y a aucun problème. J'ai testé plusieurs fois, il n'y a aucun problème. Allez-y.
Juste pour du coup pour continuer sur la suite de l'opération, moi j'ai eu juste un petit bleu, c'est quelque chose qui peut arriver, un petit hématome. Moi j'ai ressenti zéro gêne. Le truc qui m'a le plus gêné, c'est qu'on m'a demandé du coup de me raser les testicules pour l'opération. C'était la repousse en fait, la repousse des poils. Mais horrible quoi. Les points à côté, c'était rien du tout.
Ça démange. Faut éviter de passer devant les écoles à ce moment-là, parce que ça démange beaucoup. si tu commences à te gratter devant une école, c'est mal vu. Mais d'ailleurs, vous avez fait comment? T'as fait du rasoir, toi?
Oui, moi j'ai rasé, rasoir. Hein.
Oh, d'accord. J'ai fait la dépilatoire. C'était la première fois que j'utilisais de la crème dépilatoire de ma vie. Et je me vois encore à poil pendant 5 minutes, les pattes écartées dans ma salle de bain. Ça a été un moment de fou rire, la dépilatoire. Mais vraiment. J'ai encore un moment avant où j'ai passé un bon moment, en fait, à me marrer tout seul dans ma salle de bain, à me dire, mais comment on fait? Comment ça marche? Est-ce que ça va marcher, cette connerie? Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Et le rasoir, j'aurais pas osé, moi.
Alors moi je me suis pas rasé, hein, les mecs ils m'ont pas dit
En fait c'est le boucher de ton quartier qui te l'a fait, hein. Je suis désolé de te le dire, mais c'est la femme de Mathieu Veto qui te l'a fait en fait.
D'où la locale.
Bah oui.
Ah, parce qu'il y a des risques en fait d'infection en fait. Tu sais, si t'as un poil qui se met dedans et tout dans une cicatrice, généralement ouais.
Écoute, je sais pas. Hein, tu vois vraiment non, je crois pas. Ils m'ont pas dit, mec, il faut que tu traces des couilles quoi. Tu vois.
Après ouais, de ce que dis ouais.
C'est l'infirmière qui m'a appelé pour l'entrée qui m'avait précisé ce truc là quoi. Et pas le chien.
Moi, je suis à la pharmacie et puis donc j'avais la bétadine à récupérer.
On adore.
Ah, t'es passé quand même à la bétadine.
Ah bah oui, l'infirmière, je suis arrivé à poil, l'infirmière qui commence à me badigeonner la teub, tu vois, de bétadine et tout, et qui me dit il fait beau, hein, comment ça c'est, vous êtes venu comment? Vous êtes vraiment en train de me demander comment ça se passe. Vous me parlez de la pluie et du beau temps alors que vous êtes en train de me badigeonner la bite, quoi. Comment ça se passe?
Ah, tandis que moi, je l'ai fait chez moi avant. Fallait que je sois bétadiné. J'avais 4 douches à faire en fait à la bétadine avant. Et donc, je suis allé en chercher à la pharmacie. Et donc, en même temps, je lui ai demandé, vous avez pas de la crème dépilatoire? Et donc, la pharmacienne qui montre différents trucs, quoi, et qui me dit, ah bah il y a plutôt celle-là, quoi. Alors, moi, j'y connais que dalle en crème dépilatoire. Et donc, je l'ai regardé, je fais, c'est pour une vasectomie. Donc vous voyez un peu la zone à dépiler. Prenez plutôt celle-là alors. Adorable, la meuf adorable. Ça m'a fait rire.
Okay. Et moi pas de bétadine. Hein. Enfin, en tout cas, moi on m'a juste demandé de bien me laver et après j'étais endormi. Alors je sais pas si
ouais,
j'ai le droit à coup de la bétadine quand j'étais endormi, mais en tout cas il n'y avait pas de traces quand je me suis réveillé.
Les protocoles bétadine ne sont plus avant chirurgie ne sont plus systématiquement recommandés. nous dit Certificator. Moi, j'ai fait le sèche-cheveux. J'ai découvert le sèche-cheveux parce que ma femme à l'époque m'a dit faut que tu fasses gaffe à tes points, parce qu'effectivement moi c'était, je crois, la première fois que je me faisais opérer avec des points, quoi, tu vois. Elle m'a dit faut que tu fasses gaffe à tes points, faut bien que tu les essuies après tes douches, etc. Après ta douche, etc. J'ai dit ok. Je dis mais comment je fais? Elle m'a dit utilise le sèche-cheveux. J'ai fait ok, je veux voir. Putain, la révélation, mon pote.
Et des heures de plaisir depuis.
Mais bien sûr, plus jamais de ma life, je ne sors d'une douche sans me passer un petit coup les couilles au sèche-cheveux, quoi. C'est le bonheur. Mais pourquoi tu découvres ça à 40 ans? Est-ce que vous avez fait ça, vous aussi? Est-ce que vous avez suivi de ce fait-là mon... Parce que je suis influenceur sèche-cheveux sur les couilles également, quoi, tu vois. Donc,
Alors, sèche-cheveux, t'es moins influenceur, là. Je dois t'avouer que...
j'ai dit sur les couilles.
Mais alors, attends, du coup, j'ai une question à te poser. Pourquoi t'as un sèche-cheveux, quoi? Mis à part pour les couilles.
Pour ma femme et mes filles, tu vois, ont des cheveux, tu vois, d'une manière générale. Et maintenant qu'on est séparés, je me suis acheté un sèche-cheveux.
Bah moi, j'en ai pas. Donc, la question se pose pas. J'ai tapoté avec une petite serviette.
Mais pourquoi tu décides de ne pas céder aux sirènes du plaisir, de la chaleur, du vent chaud sur les testicules, quoi? C'est la vie.
Ça coûte cher, un sèche-cheveux.
Non.
Moi, j'ai un peu testé les deux premières semaines, mais j'ai abandonné après. C'était agréable, mais ça fait un peu de bruit quand même, et j'ai des enfants qui dorment.
En fait, il était grillé parce qu'il se masturbait dans la salle de bain, quoi. Donc, dès qu'il y a le sèche-cheveux qui se mettait en route, ça y est.
C'est comme les fameux jeunes couples, tu sais, qui mettent la musique quand ils vont aux chiottes. Tu sais que c'est pour la number two, tu vois.
Et du coup, c'est encore moins discret.
Bah oui, forcément. Tu sais, forcément. Tu te sèches les poils de couilles au sèche-cheveux? Bah bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas une question de aujourd'hui, je me sèche plus les poils de couilles. C'est pas ça le truc. C'est juste, c'est 3 minutes de bonheur, quoi, que je m'accorde chaque jour après une petite douche. D'où le slip chauffant a-t-il un intérêt après la vasectomie? En fait, le truc, c'est que après l'opération, ça, j'imagine que, en tout cas, moi, c'est ce que je vais vous dire, ce que le chirurgien m'a dit, d'accord? Peut-être qu'il vous a dit complètement le contraire, mais en gros, vous avez une période pendant, on va dire, 3 mois environ. C'est ça, hein, si je me trompe pas.
3 mois, ouais, c'est ça.
Ouais. Où, en fait, vous avez encore la possibilité d'avoir des spermatozoïdes qui traînent, en fait, dans votre organisme d'une manière générale, qui traînent dans votre urètre, bref, qui traînent.
Prostate, en fait, surtout.
Prostate, effectivement.
Dans la prostate, en fait, parce que du coup, les spermatozoïdes vont dans la prostate, et c'est là que ça fait le petit mélange. Et après que ça part en éjacula, quoi.
Merci Mathieu pour cette précision. Et donc pendant 3 mois, il faut surtout bien faire gaffe à utiliser un autre moyen de contraception, ou à utiliser un moyen de contraception que vous aviez auparavant, quoi. Parce que il y a encore une possibilité pendant 3 mois de se reproduire, quoi, tout simplement. Et donc là, à ce moment-là, peut-être que le slip chauffant marche, mais je vous avoue que je connais pas assez bien le slip chauffant, parce que c'est plusieurs semaines, c'est ça?
Ça met 3 mois justement.
Ah oui.
En fait, c'est ça, c'est le délai, enfin, c'est la durée de vie des spermatozoïdes. Donc, c'est pour ça que le slip chauffant, oui, à partir du moment où tu le mets, c'est 3 mois pour devenir stérile. À partir du moment où t'arrêtes, direct, tu l'es plus, quoi. Donc,
Fais troller par tes viewers, quoi, tu vois. C'est du énième degré, cette histoire de slip chauffant. Mais en plus, c'est un vrai truc. C'est-à-dire que le vrai drame de ce modèle, de ce système de contraception, c'est que ça passe pour une blague. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre live avec ce mec qui a une association qui est géniale, qui s'appelle Garcon, qui fait la promotion du slip chauffant et qui, lui, il l'utilise depuis des années et qui explique c'est tout bien cadré, en fait. Vraiment, le truc marche, le truc fonctionne. Simplement, contrairement à la vasectomie, c'est pas définitif, quoi. Mais effectivement, dès que tu utilises le terme slip chauffant, les gens, ils disent ok, c'est de la magie noire, quoi, tu vois. Donc forcément, on lui fait pas confiance, quoi. Ceci dit, il y a pas mal de femmes qui aujourd'hui décident de gérer leur contraception avec la lune et avec leur salive, si tu veux. Donc moi, à un moment donné, je me dis bon, pourquoi pas un slip chauffant, quoi, tu vois.
Est-ce que c'est le moment où je parle de ma petite histoire un petit peu bizarre ou pas? Rien qui ne va te faire ban de Twitch, rassure-toi. Quand je suis parti du CHU, donc c'était de l'ambulatoire, donc je rentrais le matin, je sortais le soir, le professeur est venu me voir, tout ça, pour vérifier qu'il avait bien fait son boulot. Donc bah, pour lui, tout était ok. Et il m'a dit bon bah voilà, donc il m'a filé mon ordonnance pour les antalgiques si j'avais besoin. Il m'a dit bon bah on vous rappelle demain pour savoir si tout s'est bien passé pendant la nuit, si tout va bien, et puis bah c'est tout, quoi. Si vous avez un problème, vous appelez, mais c'est ok. Mais sinon c'est ok. Et finalement, Quelques temps après, on m'appelle et on me dit quand est-ce que vous êtes dispo pour un rendez-vous avec le chirurgien. Donc je trouve ça un petit peu bizarre qu'on me demande de revenir alors qu'on m'avait dit que c'était ok quoi. Donc j'ai demandé à la nana, je fais c'est un rendez-vous de suivi. La secrétaire qui me dit oui c'est pour le suivi, bon ok. Donc j'y suis retourné. Bon, il y avait un petit peu de retard, c'était un peu chiant. Le chirurgien me dit de venir dans le bureau et me demande comment ça va. Je dis, écoutez, ça va. J'y ai vous. Et là, il me regarde et il me dit pas très bien, j'ai une mauvaise nouvelle. Et là, je peux vous dire que j'ai flippé parce que quand vous faites une vasectomie, ils prennent des petits bouts pour envoyer en analyse et tout. Enfin moi c'est ce qu'ils ont fait. Peut-être que Fab c'est pas ce qu'ils ont fait du tout.
Mais... Non.
Ah moi il y a un bout. Enfin voilà, ils en coupent un peu plus pour être sûr déjà que ça se recolle pas tout seul et ils envoient ça en analyse en fait pour vérifier quoi. Et donc là dans ma tête moi ça a popé, j'ai dit putain j'ai un cancer quoi. Donc j'ai eu vraiment petite goutte de sueur qui perle. Et là il me dit on sait pas ce qu'on a coupé. Voilà. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez eu le petit speech avant.
Quoi ?
On vous explique tout, c'est quoi la vasectomie, tout ça. Et est-ce qu'on vous a dit aussi qu'il y a de temps en temps où il y avait 1% d'écart, où ça marchait pas très bien, où c'était un peu le bordel où,
C'est toi ?
Eh ben bonjour, je suis le 1% d'écart. Donc, alors quand il m'a dit ça, par contre, j'étais tellement soulagé parce que voilà, il disait juste on sait pas ce qu'on a fait quoi. Et donc pour eux. Il n'y a pas eu de problème. Enfin, il m'a ausculté. Là, on m'a ausculté. Donc, il a justement, que tu disais, le mec qui tire sur le canal déférent, il l'a fait pour vérifier qu'il était bien sectionné. Donc, le chirurgien, à la consultation, il m'a dit, moi, ça me semble bien sectionné. Par contre, en fait, le morceau qu'on a envoyé en anapath, c'est revenu avec un résultat, ce n'est pas du canal déférent. Donc, il y a deux possibilités. C'est où ils ont coupé autre chose, parce qu'il y a des gens qui sont mal gaulés à l'intérieur. Et qu'on plein de trucs. Et donc, ils coupent des tuyaux, mais c'est pas du canal déférent. Alors, c'est 1%. Ça, c'est 1%. Hein. C'est 1%. Quand j'ai contacté Fab, je lui ai dit j'ai une petite histoire à raconter. Est-ce que tu veux la savoir ou pas? Il m'a dit non. Donc, vous voyez, là, c'est sa vraie réaction.
Non.
Et donc, c'est soit c'est pas du canal déférent. Donc finalement ma vasectomie est ratée. Soit c'était vraiment mon déférent et j'ai un canal déférent qui est un peu bizarre et qui ressort pas comme ça au niveau anapath quoi. Et donc il m'a demandé qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous repassez sur le billard ou est-ce que on attend le spermogramme et on regarde le résultat du spermogramme pour aviser en fonction de ça quoi. Donc évidemment voilà, je suis célib en ce moment et tout. Je suis pas pressé en fait d'avoir ma vasectomie quoi. C'est faut que ça soit fait, mais je suis pas pressé. Donc j'ai dit voilà, on attend le spermogramme et on avisera au spermogramme. Mais
ça tombe, là t'es une arnaque depuis tout à l'heure. C'est ça que tu es en train de nous dire.
Et exactement. Alors, donc, j'aime à l'appeler ma vasectomie de Schrödinger. C'est une vasectomie qui, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on ne sait pas si elle est effectuée ou si elle n'est pas effectuée. Donc, je suis en attente. J'ai mon spermogramme le 17 juin. Donc, on verra le 17 juin si. Mais le chirurgien me dit effectivement, moi, j'annonce aux gens qu'il y a 1% des cas où ça ne marche pas, où il y a eu un problème, tout ça. Il me dit, vous êtes le premier patient que je vois à qui ça arrive. Donc le mec en fait un petit paquet quand même.
Oui, j'imagine.
Quoi. Et je suis le premier où il se dit, ça y est en fait, les 1%, je les ai vus devant moi, ça y est, j'en ai eu un quoi.
Parce qu'il y a Kramus là qui dit, ça donne pas envie du tout d'en faire une. Mais en fait, non, c'est vraiment 1%. C'est-à-dire qu'il y a les statistiques, les probas.
Et puis dans les 1%, il y a les gens comme moi qui où c'est le foutoir là-dedans. Et donc du coup, ils coupent le canal déférent, mais finalement, ils savent pas trop si c'est vraiment le canal déférent. Il y a ceux où en fait les canaux déférents se recollent. Ça arrive de moins en moins, mais voilà, il y a les canaux en fait. La nature est plutôt bien faite. Et elle se dit, tiens, c'est bizarre, il y a un truc qui a été coupé, je vais essayer de rebooter tout ça. Donc dans les 1%, il y a vraiment tout ça, quoi. Mais voilà, c'est pas grave, quoi.
Je sais pas si vous avez vu cette série Sex Education.
Ouais.
Yes.
Petit spoiler, pas gros spoiler, mais petit spoiler. En gros, il y a un personnage qui a une vasectomie et moi, ça m'a vraiment rendu fou parce que je trouve que vraiment la série est trop bien faite sur tous les aspects, etc. Mais là-dessus, donc il y a un personnage qui a une vasectomie. L'autre personnage, enfin le personnage féminin tombe enceinte et donc quand le toubib lui annonce qu'elle est enceinte, elle lui dit mais c'est impossible, il a une vasectomie et tout. Elle lui dit voilà, c'est comme ça. Et c'est tout. Et tu vois, j'ai dit mais non, Mais non, c'est vraiment le c'est la pire façon de dire ça, quoi. C'est comme ça. Parfois ça marche pas. Tiens, mais non, en fait, ça n'existe pas. Pour le coup, c'est une fois que ça marche. Et que t'as fait ton spermogramme, etc., c'est 99,9% de chance de faire en sorte que ça ne
soit pas efficace.
C'est efficace.
À partir du moment où il y a le spermogramme qui a été fait et que le spermogramme dit que voilà, t'es stérile, voilà, c'est fait, quoi. Donc
vous n'avez pas encore fait du tout votre spermogramme. Alors toi, pour le coup, Tonyob, c'est vraiment parce que voilà.
J'attends.
Toi, de ton côté, Mathieu, a priori, t'as pas été rappelé, tout va bien.
Moi, tout va bien. Là, j'ai mon rendez-vous de suivi normal, quoi. Fin de juin, donc.
Mais c'est quoi rendez-vous suivi? C'est juste.
Je sais pas. J'ai le spermogramme et je revois le chien.
Ah ouais? Putain, mais moi, ouais. J'ai jamais revu le chien de ma vie.
Ouais, c'est pour qu'ils me reprennent 50 balles, quoi.
Ah, ok. Ceci dit, je vois que depuis tout à l'heure, vous êtes en train de vous foutre de ma gueule avec mon chirurgien un peu niqué et tout, tu sais quoi. D'accord. Mais d'un autre côté, ça a marché, mon bordel, tu vois.
Ça vous a coûté combien, du coup, la vasectomie?
Moi, ça m'a coûté. Alors, au début, ça devait être 250€ non pris en charge. Il m'a réduit puisque ma mutuelle me prenait pas en charge. Du coup, ça m'a coûté 100€ de non prise en charge.
Moi, je crois que si j'ai bon souvenir, c'était 300 balles.
Ok.
Et toi?
Ça m'a coûté 18€.
Pour une vasectomie ratée.
Ouais, merde, putain, ouais, c'est vrai. En fait, oui, c'est vrai. Si on fait le rapport, le prix que ça a coûté par rapport à l'efficacité, effectivement, j'ai payé beaucoup plus cher que vous.
Non, peut-être t'étais dans le public, voilà. Du coup.
Ouais, dans le public. Et en fait, ce qui m'a coûté les 18 balles, en fait, c'est deux consultations, en fait. Mais l'opération en tant que telle m'a rien coûté. J'ai payé les deux consultations à 9€.
Putain, et franchement, on est quand même dans un beau pays. Il y a Cramus, justement, qui dit au Canada, c'est 900 balles. 900 dollars canadiens.
Ouais, donc non mais voilà, c'est ça, faut en parler aussi, quoi. C'est aussi,
merci,
si
là,
enfin, c'est pas quelque chose d'excessivement cher, et si vous arrivez à faire ça dans le public, en fait, ça coûte vraiment rien, quoi.
C'est pas possible partout dans le public. Moi, je suis sur Nantes, et Nantes, il y avait rien qui se faisait dans le public, c'était obligatoirement dans le privé. Même si c'était au sein du CHU, c'était des praticiens privés, quoi.
Mais ça reste un bon investissement par rapport au coût d'un enfant sur une vie.
C'est un très bon investissement, ouais.
Même, c'est un investissement par rapport à une contraception haute.
Bien sûr, j'allais dire.
Franchement, ça vaut le coup, quoi.
Par rapport à si vous mettez des capotes, ça, c'est très très vite rentabilisé. Après, ça dépend de votre activité sexuelle, tu vois, on peut pas dire. Si vous baisez une fois par an, effectivement.
On a dit qu'on n'en parlerait pas, quoi. Hein. C'est pas sympa. T'es pas sympa, Fab.
N'importe quoi. Les gens vont vraiment le prendre au premier degré, hein, tu vois. Est-ce que je vous spoil le spermogramme?
Oui.
Parce que le spermogramme est un moment d'anthologie.
Très fun.
Donc 3 mois plus. Bah oui, donc toi, tu l'as fait pour le coup, Mathieu?
Ah, 4 fois. Quatre fois. Moi, je suis rodé. C'est facile.
Comment ça s'est passé pour toi?
Donc j'étais dans une petite salle d'attente. On m'a dit, venez par là, hop, on vous présente une petite pièce avec un lit et un téléviseur avec une petite pub qui était marquée en dessous, sponsorisée par Dorcel pour les contenus.
Non.
Alors, si j'ai une photo, je pourrais te la sortir.
Non.
Ça, c'était au CHU de Nantes, du coup.
Mais putain, dans le public ?
Ouais.
Bah, en même temps, que ça soit sponsorisé par Dorcel, que ça soit une vieille VHS des années 90, que toi qui traîne.
Moi, j'avais une VHS des années 90. Hein.
Ah, ok.
Et donc après, tu t'enfermes gentiment dans la pièce. Alors, moi, vu que c'était un don, je sais pas si c'était la même chose pour le spermogramme, mais j'ai dû faire une petite toilette intime, du coup, et puis après
toilette intime, j'ai en gros, il te file une lingette. Et
une lingette,
et nettoyer la tub.
Sérum fille. Tu dois, du coup, uriner, en tout cas, nous. Et puis après. Une masturbation, et tu récoltes dans un espèce de verre, ça ressemble à un petit verre.
Ah ouais, toi, c'était ça.
Ouais, une fois que c'est terminé, tu t'es habillé, tout ça, tu peux. Moi, j'appelais, et après, il y a quelqu'un qui venait m'ouvrir, et c'est parti, quoi.
Comment ça, il y a quelqu'un qui venait t'ouvrir?
Eh ben, en fait, vu que c'était une pièce qui vient me raccompagner jusqu'à l'accueil, quoi. C'est pas. J'étais au sein du service biologie de la reproduction, du coup, pour le don de sperme. C'est peut-être différent, du coup.
Je crois, de toute façon, il faut qu'on arrête de comparer nos expériences en partant du principe qu'on a tous vécu la même chose. Hein. Ça peut l'air d'être le cas.
Je pense personne d'autre, quoi. Autre que les personnes, que le personnel, quoi. Je me suis pas baladé avec mon petit gobelet de sperme au sein de l'hôpital.
On peut comparer avec d'autres mecs. Alors toi?
Et regarde, la dose. Mais il me semble que c'était un peu plus traumatique de ton côté.
Non, pas Fab, traumatique en plus, mais c'est juste
traumatique.
Non. Alors c'était marrant parce que je me suis pointé. J'avais pris un rendez-vous à 8h du mat, donc 7h30 dans un labo dans la banlieue lilloise. Et en fait, l'histoire veut que j'ai fondé ce magazine qui s'appelle Mademoiselle il y a des années. Et en fait, il m'arrive d'apparaître sur des lives, sur des vidéos, sur des vlogs, etc. J'ai pas trop joué à ce truc-là. Tu vois, je me considérais pas comme Patrick Sébastien. En revanche, le truc, c'est que sur un certain public, on va dire de jeunes femmes entre 18 et 30 ans, quoi, tu vois, 15 et 30 ans, on va dire, il y a beaucoup plus de chances que je me fasse reconnaître dans la rue. C'est-à-dire que ça m'arrive une fois de temps en temps, une fois par semaine, alors là maintenant moins avec le masque et tout, mais une fois par semaine, je me fais arrêter dans les transports en commun, sur généralement des meufs, tu vois, qui m'arrêtent en me disant « Hey, c'est toi Fab, salut, j'adore ce que tu fais », enfin c'est toujours très très sympa. Il s'avère que la meuf qui vient me chercher a ce regard que je reconnais, parce que je finis par le reconnaître, tu vois. Tu sais, il y a parfois des meufs qui sont ou des mecs d'ailleurs, qui sont dans les transports en commun et qui te regardent comme ça, et qui font « ok », et qui te regardent trop, de façon trop insistante pour que ce soit naturel, quoi. Et la meuf me regarde, elle a un petit sourire, et je me dis « putain, c'est sûr, elle m'a reconnu, tu vois. » Et elle a été ultra pro, vraiment ultra pro. Simplement dans sa tête et dans ses yeux, il y avait un peu ce truc de « putain, ce soir, on va boire des coups avec les potes et j'aurai la meilleure anecdote. » Donc elle m'a amené dans cette fameuse salle à me poser des questions, en gros, pourquoi t'es là, etc. Enfin, tu vois, donc là, tu dis, c'est un spermogramme de contrôle post-vasectomie, etc. Et puis, elle me fait une vanne en me disant, si vous appuyez, parce que là, il y a une télé, quoi, tu vois. Elle me dit, si vous appuyez sur le bouton, vous allez avoir de quoi vous aider. C'est pas forcément la dernière qualité, genre la meilleure qualité du monde, mais ça peut faire le taf, quoi, tu vois. J'étais là, yes, super. Et donc effectivement, il y a un bon porno. Moi, j'ai quand même cliqué. Enfin, tu vois, j'ai quand même regardé pour voir à quoi ça ressemblait, quoi. Je me suis dit, putain, il y a quand même un porno des années 90, quoi. Tu vois. Et ils appellent ça le recueil. Je sais pas comment ça s'est passé pour toi, Mathieu, mais ils parlent de recueil, tu vois. Donc moi, je trouvais qu'il y avait
de recueil, ouais.
Il y a un aspect
un peu
poétique, tu vois, à ta foutre, hein, tout simplement, à ton foutre. Hein, c'est le recueil. Puis voilà, moi, j'ai dû me laver la teub. Je sais même plus comment j'ai fait pour finir par réussir à éjaculer, parce que vraiment en plus c'était tôt le matin et tout, c'était chaud. Mais et en fait, pour le coup, moi je suis sorti avec mon petit gobelet et je suis allé le mettre au labo, quoi, tu vois. Bon bah très bien, je vous le mets à un endroit, voilà, c'est à moi, c'est super. C'était marrant. Et quelques jours plus tard, tu reçois le truc qui te dit, en gros, t'as des traces, quoi, tu vois, de spermatozoïdes, mais c'est, il y en a pas assez pour que tu puisses faire quoi que ce soit, quoi. Excellente nouvelle, donc.
C'est que ça a marché.
Ça a marché. J'espère pour toi, Antonium, franchement.
J'espère pour moi aussi, hein. Mais voilà, je me dis, si je peux me faire un deuxième follower en me retournant me faire opérer, pourquoi pas, il y a pas de mauvaise idée pour avoir des follow, quoi.
On peut peut-être parler effectivement de l'aspect politique maintenant. C'est que il y a Bleu Bourdon qui dit, en tout cas merci d'en parler, ça fait vraiment du bien, de ma position de nana qui a toujours dû gérer la contraception pour le couple, ça soulage vraiment de voir que c'est possible pour vous aussi, et c'est hyper intéressant en plus. Des choses à dire là-dessus.
En fait, tout est politique, moi, parce que j'avais pas de besoin immédiat de faire une vasectomie, mais c'est clairement politique, parce que déjà voilà, la première idée, c'est de ne pas avoir d'enfant, donc qui reste un choix politique, en fait.
C'est surtout aujourd'hui, hein.
C'est ça, c'est par rapport au monde dans lequel on vit, de tout ce qui se passe, et la surpopulation, le réchauffement climatique. Et effectivement, oui, enfin j'aurais adoré être parent, hein, c'est clairement. À côté, voilà, j'ai mes nièces qui sont deux petites nanas voilà, que j'adore, et qui va, plus elles grandissent et plus je les kiffe, quoi. Et j'essaie d'en faire des petites féministes en plus, donc c'est cool. Et
tu te bats contre le reste du monde, hein, n'oublie jamais.
Ouais. Mais à côté de ça, ouais, rajouter des. Alors oui, on peut parler des bilans carbone. Tu vois, souvent on nous sort l'avion, il faut pas prendre l'avion, tout ça. La pire chose que vous puissiez faire, qui va niquer votre empreinte carbone, c'est pas de prendre l'avion, c'est de faire un gosse. Voilà. C'est dit.
Ça a été tellement mal reçu, ça d'ailleurs, quand je sais plus exactement qui avait sorti ça, qui avait fait justement un comparatif. Et tout en haut du truc, c'était faire un enfant de plus.
Ouais.
ce qui était bof comme formulation, si tu veux.
Ah, c'est clair. Je cherche pas, par exemple, à dire aux gens, faites pas des enfants, c'est une connerie, quoi. Je peux comprendre le désir d'enfant. Je peux le comprendre parce que je l'ai eu, mais voilà, il y a eu le côté conscient de ce qui se passe un peu dans le monde et de dire bon bah voilà, je fais un enfant aujourd'hui, mais dans 40 ans, moi je serai peut-être plus là et qu'est-ce que je lui laisse comme terre, quoi. Et c'est ça qui me posait problème. Et le deuxième choix, c'est aussi de me dire voilà, si à un moment je retombe dans une relation longue, et bah enfin il y a une nana qui va se gaver d'hormones pendant des années pour pas qu'on ait de gosse, alors que moi finalement ça m'aura coûté quoi? Une journée de ma vie. Enfin, si on compte pas les rendez-vous avant, en termes d'intervention, moi ça m'a rien coûté, quoi. Et derrière, c'est pas voilà, je prends pas d'hormones ou quoi. C'est fait, c'est simple. Et donc c'est ce que je disais aussi au tout début. Ça me simplifie en plus moi la vie. Pour maintenant, quand je rencontre une personne, il y a pas de problème de voilà. Et peut-être que effectivement, il veut pas d'enfant, mais je peux lui faire changer d'avis si j'ai les bons arguments ou quoi. Voilà, si je rencontre quelqu'un aujourd'hui, c'est salut, je suis stérile, quoi. Donc ça me simplifie en plus la vie, quoi. Donc il y a vraiment, enfin, je voyais pas de point négatif à la vasectomie, en fait. Ça a été le choix évident, tellement il y avait que du côté positif, quoi. C'est derrière, effectivement, ça me simplifie moi mes futures relations, ça simplifie la vie d'une nana qui va potentiellement vivre avec moi. Je suis sur les sites de rencontres, n'hésitez pas. et il y a un choix politique derrière tout ça, qui est le fait de ne pas faire d'enfants, parce que aujourd'hui peut-être que la Terre en peut plus et que faudrait limiter, quoi.
Et je t'avoue que pour apporter un peu ma pierre à ton édifice, c'est que donc moi quand j'ai fait mes deux filles, quand on a fait nos deux filles, on parlait très très peu du réchauffement climatique et des changements environnementaux, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui mes deux gamines là qui ont 15 et 13, la pandémie, elles la vivent de façon extrêmement chelou, quoi, tu vois. C'est pas du tout naturel pour des gosses de cet âge-là de pas pouvoir faire des câlins à leurs potes, de pas pouvoir aller faire, bah là ça fait un an qu'elles font plus de sport, tu vois, où elles sont, c'est devenu des flaques, en fait, les gamines, elles ont un mal fou à bouger. Et en fait, parfois je les regarde dans le métro et je me dis putain, je suis un peu désolé, quoi, tu vois, de, elles sont là avec leurs masques et je me dis putain, je suis un peu navré, tu vois, de vous avoir foutu dans ce monde un peu merdeux, quoi, tu vois. Et c'est pas un truc qui est très très facile à vivre, tu vois, en tant que parent, c'est même un poil compliqué, quoi.
En tant que tonton, tu vois, j'ai les mêmes questions, en fait. Enfin, moi, elles vont prendre 11 ans et 8 ans cette année, et donc tu vois, elles sont un peu plus jeunes, quoi. Mais ça me conforte, en fait, dans ma décision, quoi. C'est quand elle me rapporte des trucs sexistes, tu vois, de l'école par exemple, bah tiens, j'ai fait ça, et puis il y a machin, il m'a dit que j'avais pas le droit parce que j'étais une fille et tout. Enfin, donc il y a des trucs plus compliqués que ça, tu vois. Le réchauffement climatique, effectivement, voilà, la fascisation de tous les pays en ce moment en est une autre, mais en plus, vraiment des trucs qui les touchent elles directement, tu vois. C'est ça qui me fout le plus en rogne. Donc je me dis ouais, non, c'est finalement, c'est peut-être pas plus mal. Après voilà, j'ai eu les arguments comme quoi c'était oui, effectivement, tu peux peut-être faire les enfants qui vont changer le truc, quoi. Mais en termes de probabilité, quel est le risque que moi, personne somme toute très banale, fasse à un enfant qui change le destin du monde? J'y crois pas.
Ouais, puis je trouve que c'est beaucoup de... Alors je comprends, il y a Bibi la Diva qui dit à côté de ça, je vois mes fils essayer de changer le monde, notamment côté sexisme. Je suis d'accord avec toi, et il y a aussi un côté un peu... C'est beaucoup de pression, quoi, tu vois. C'est un peu... Bon, ma fille, c'est à toi désormais de flinguer le patriarcat, à toi toute seule, ou presque. C'est là, ah, c'est quand même beaucoup, quoi. C'est pas parce que Tony Hobb, il vient dire qu'il veut pas avoir d'enfant, qu'il vient forcément juger votre désir d'enfant, hein. Tu vois,
c'est pas... C'est ce que je disais, au contraire. Ouais. Enfin, moi, les personnes, j'ai une pote lesbienne, tu vois, et qui veut faire des gosses avec sa meuf. Je suis le premier à la soutenir, enfin, à les soutenir toutes les deux, et à dire allez-y, quoi, foncez, si c'est votre désir, enfin, faut le faire, quoi. Donc, j'ai jamais dit à qui que ce soit de ne pas faire d'enfant, quoi. C'était juste moi, mes convictions personnelles font que j'en voulais pas.
J'entends. Ton côté, Mathieu ?
Et ben, moi, je reprends à peu près les mêmes choses que qu'Anthony. Et à son côté politique, il y a aussi le fait d'en parler. Je trouve que c'est tellement important que ça rentre dans le champ des possibles de tout le monde, en fait, que ce soit pas juste un petit truc qui soit oublié. Et moi, ça me désole un peu d'avoir attendu pratiquement 30 ans pour commencer à en entendre parler. Que c'était quelque chose de possible. C'est un peu dommage. C'est vrai que la contraception, on le voit beaucoup sur le côté, sur le plan féminin, la pilule, les implants, tout ça. Mais malheureusement, la vasectomie, c'est quelque chose de très, très peu diffusé. Alors, j'espère que ça commence à arriver un peu, mais c'est pour ça que moi, j'essaye d'en discuter aussi assez ouvertement avec les gens. C'est pas quelque chose que je cache. Tout comme le don de sperme, c'est quelque chose que voilà, je vais pas le crier non plus sous tous les toits à la première rencontre, mais c'est quelque chose voilà que j'aborde très très facilement. Et le fait de l'aborder, je pense que ça permet aussi aux personnes que j'ai dans mon entourage que ça rentre dans le champ des possibles, de se dire ah bah ouais, c'est peut-être une solution qui existe et pourquoi pas y aller quoi.
Carrément. Je suis très d'accord avec ça.
Je suis plutôt d'accord aussi avec ça. C'est quelque chose dont j'ai parlé, moi, par exemple, sur ma chaîne, Tony Hub, hein, sur Twitch. mais les gens, j'en ai parlé en stream et avant. J'en ai parlé le lendemain parce que dès le lendemain, j'étais de retour en stream et on a blagué là-dessus. C'est ça, essayer de diffuser la parole. Je ne sais pas si c'est un truc très français ou si c'est un truc très latin de ne pas en parler. Mais par exemple, les pays anglo-saxons, la vasectomie, c'est pas un problème pour eux. Quoi. Il y a une grosse partie
20%
de la population après 40 ans qui est vasectomisée, quoi. Ça reste marginal, quoi.
Il y en a 9000 par an en France, donc c'est vraiment que dalle. Aux US c'est 15% je crois, et au UK c'est 20, donc c'est vraiment rentré dans le... c'est un mec sur 5, quoi. C'est énorme. Est-ce qu'il y avait des choses dont on n'a pas causé, les mecs, dont vous vouliez parler dans ce live, parce qu'on est ensemble depuis bientôt 2 heures?
Si on veut que les gens le fassent, est-ce que vous aussi vous êtes vachement meilleur amant depuis la vasectomie?
Ouais, de ouf, vraiment.
Moi, j'ai constaté ça.
Hein, la folie.
Je tiens tellement longtemps désormais. Voilà.
Ah ouais, non, mais mes partenaires maintenant, c'est 3 orgasmes à chaque fois maintenant par rapport.
Eh ben moi, 14, excuse-moi. Mais c'est peut-être parce que je me suis fait snip-snip localement, quoi, tu vois. Je suis sorti tellement plus viril.
C'est ça, moi, c'est ma vasectomie de Schrödinger qui du coup, doit débloquer. Vraiment, je voulais revenir sur le fait que c'est rien, en fait. Malgré mon expérience de 1% merdique, qui finalement va peut-être se révéler être juste, il avait un canal différent. Mais ouais, c'est rien, en fait. Le seul problème qu'on peut avoir, oui, c'est avec le corps médical, et voilà, quand vous êtes nullipare comme moi, vous n'avez pas d'enfant, on peut peut-être vous faire chier avec ça, on peut vous faire chier aussi avec votre âge, mais derrière, si vous montrez que vous connaissez le sujet et que vous êtes vraiment décidé, il n'y a pas de raison qu'on vous... Légalement, les médecins ne doivent pas. Vous avez le droit, en fait. C'est devrait pas. Moi, le premier chirurgien que j'ai vu qui m'a dit non, je veux pas. Légalement, je peux porter plainte contre lui et dire voilà, vous avez pas le droit de dire non. C'est j'ai le droit à la stérilisation si j'en ai envie, quoi.
Vous êtes, comme le dit Guigui, vous êtes juste, vous devez être majeur, pardon, que vous soyez un mec ou une meuf d'ailleurs.
Ouais, voilà. Par contre, il a le droit de retrait. Si vous voulez mon avis, je pense que les médecins ne devraient pas avoir de droit de retrait. Même chose sur les IVG. Hein. Les médecins qui disent non, je vous fais pas d'IVG parce que moi c'est loin de mes convictions. Vous avez plus votre diplôme de médecin. Allez, bisous, hein. Allez voir ailleurs. Donc voilà, le droit de retrait sur quelqu'un, vous voyez, qui physiquement a un problème et ça serait dangereux pour lui. Voilà, moi, si on m'avait dit non, effectivement, vu votre condition de santé, ça serait dangereux de vous faire une vasectomie. Effectivement, là, je comprends qu'il y a un truc. Ce qu'on me dit, c'est quand vous aurez 40 ans et vous allez vous taper une année de 20 ans, vous changerez d'avis. Non, c'est pas une raison.
C'est un jugement, en fait. Là, c'est quelque chose qui est assez bénin, en fait, comme opération. Au final, il n'y aurait pas les points. Tu te réveilles 15 jours après, tu peux pas savoir quand t'as fait une vasectomie ou pas, quoi. Pour moi, c'est vraiment, il y a rien qui change, quoi. Donc, allez-y, quoi. Après, voilà, c'est quelque chose c'est quelque chose voilà de définitif. Ça, il faut être assez carré là-dessus.
Ouais, en fait, tu peux le faire.
J'ai cru qu'il y avait des choses qui pouvaient se refaire.
Alors tu peux l'inverser, mais il faut vraiment pas. Si j'ai bien compris, c'est 50% de possibilité de que ça marche, que tu puisses remettre une femme éventuellement enceinte. Donc, faut vraiment pas compter dessus, en fait. Tu vois.
En tout cas, c'est quelque chose qui est important. Et puis, je vais refaire ma petite promo encore du don de gamètes, mais. C'est un peu dans le même genre, c'est prendre un peu les choses en main et puis y aller, ça prend pas beaucoup de temps et voilà, c'est aussi une posture en tant que homme entre guillemets, mais on sort un peu du modèle viriliste, c'est sûr, hein, mais pour autant on a encore des testicules, on n'est pas comme voilà, c'est pas une castration, il n'y a pas besoin de mettre des implants comme certains clients que ma compagne a, où on demande à mettre des jolies petites prothèses testiculaires pour que le chien il reste viril aussi. Ouais, c'est assez étonnant. Je pense que c'est une vraie solution qu'il faut pas écarter et ouais, ça prend une journée quoi. Une journée, les rendez-vous, allez, ça une demi-journée à chaque fois si faut vraiment les caler, et encore si on arrive à les caler en dehors du boulot, ça se fait tout seul et puis c'est bénin. Bah en tout cas, moi c'est comme ça que je le vis et que je le ressens, et je suis hyper content en tout cas de le faire, et pour moi, et pour ma bulle familiale aussi, je trouve que c'est un engagement important.
Il y a Diplomate ouais, qui demande dans le chat, voilà, qui dit que... Il a plus de rapport depuis un an, et donc pourquoi faire une vasectomie? Bah peut-être parce que ta vie peut changer. Tu peux rencontrer quelqu'un. Enfin voilà, tu peux rencontrer quelqu'un d'autre. Et si vraiment, en fait, moi je partirais du contraire. Pourquoi ne pas en faire une en fait? C'est si t'as plus envie d'enfant, pourquoi ne pas faire une vasectomie en fait? Quels sont tes arguments pour dire non, effectivement, là je peux pas parce que il y a ça qui va poser problème. Il y a un aspect
définitif, je crois, tu vois. Je crois qu'il y a des gens qui détestent les choix définitifs. Et ouais, je peux comprendre, en fait, tu vois.
Ouais, oui. Peut y avoir ça, mais voilà, c'est pour ça que je parle du point. Si vraiment tu ne veux plus d'enfants de manière définitive, qu'est-ce qui t'empêche de faire une vasectomie, quoi? Parce que voilà, là effectivement t'es en couple aujourd'hui, demain ça peut changer. Demain tu peux rencontrer une nanette de 20 ans.
T'en as 40.
Ouais, voilà, non mais c'est un rapport avec le fait de ne plus avoir de rapport sexuel. J'ai pas compris
non plus.
Désolé diplomate, j'ai pas compris. Mais voilà, enfin c'est pas parce que t'as plus de rapport que ça sera le cas pour le restant de ta vie en fait. Tu peux en avoir. Moi je sais que enfin là maintenant j'avais une certaine appréhension dans mes dernières relations au sexe pénétrant, parce qu'il y avait toujours ce petit truc dans ma tête de me dire merde si se passe quelque chose et que la nana tombe enceinte. Je sais que dans mes prochaines relations je vais être vraiment libéré par rapport à ça, en me disant voilà, même si y a un truc qui se passe mal, donc ça peut être une capote qui craque au début, alors voilà, on a toujours le problème des IST, on en reparle, mettez des capotes et faites-vous tester, mais voilà, s'il y a un problème, eh ben je m'en fous en fait, je sais que je serai stérile et derrière il y aura pas la potentielle mise en cloque. Et je vais y aller de manière beaucoup plus libérée.
Ce côté prise en main en fait aussi de la contraception en fait, c'est on tient aussi une clé de la contraception aussi de notre côté qui est important, oui, parce qu'une capote qui pète forcément c'est pilule le lendemain, mais c'est plutôt une nana qui va la prendre, voilà, il y a pas côté masculin, c'est très très limité ce qui peut se faire. On parlait du slip chauffant, mais qui est toute une procédure à mettre en place. On peut pas se dire du jour au lendemain, je mets un slip chauffant et je suis protégé, entre guillemets.
Bah, tu peux même pas le faire parce qu'il n'y en a pas en vente.
Faut le fabriquer.
C'est ça. Si tu veux un slip chauffant aujourd'hui, faut que tu le fabriques toi-même. Donc, déjà, ça prend du temps. Faut que t'apprennes à coudre. Ouais. Et derrière, après, ouais, il y a les 3 mois. Après, faut pas déconner, quoi. Si t'oublies une journée, c'est foutu, quoi.
Non, je crois pas que ce soit aussi. Je crois pas que ce soit aussi vénère.
Dans le problème du pantalon, c'est bien ce qu'ils expliquent. C'est si t'oublies une fois, direct tes testicules, ils font c'est bon. À la bonne température, on remet la max quoi. C'est ça, tu vois, ils repartent direct. Et donc, t'as quand même un délai parce que par exemple, t'es pas obligé d'en porter un la nuit quoi. C'est pas 24 quoi. Mais à partir du moment où t'es 24 heures sans l'avoir mis, c'est foutu, c'est bon. Tu sais que 2-3 jours après, t'es de nouveau fertile.
On fera un autre live sur le slip chauffant, je vous promets. On parlera de non pas de cette fois de se faire couper les couilles, mais de se les faire remonter. Ça, a l'air, ça discute dans le chat. On peut se retenir, non, sortir à l'extérieur. Alors non,
ça ne marche pas.
Le retrait, il faut pas. Le retrait ne marche pas. Hein. C'est-à-dire que c'est 50% de chance de mettre la personne enceinte, tout simplement. C'est vraiment pas une méthode de contraception parce que il y a des spermatozoïdes qui partent un petit peu avant dans le liquide préséminal, etc., etc. Ah oui. Non, c'est pas. Faut pas déconner. Le retrait n'est pas une méthode de contraception. La meilleure méthode de contraception qui existe aujourd'hui pour les mecs, c'est alors le slip chauffant, la vasectomie, certes, mais le préservatif, là, a priori.
Alors, il y a les injections d'hormones aussi qui marchent.
Ouais, et puis il prépare un gel rush. Aussi, non, c'est ça. J'ai vu qu'il y avait un gel qui était en cours de création, qui met des années à sortir, où il te pique le canal déférent. En gros, ils te mettent du gel. Et
c'est ça, il le comble, en fait.
Ouais. Et ça dure quelques années, et je crois que c'est 3-5 ans, je ne sais plus. Et il faut le refaire, ou alors tu peux décider d'arrêter, quoi. Donc, c'est...
La meilleure contraceptive, c'est l'abstinence. Effectivement. Oui. Et encore, t'es pas à l'abri de te frotter sur un endroit. Attention.
La sodomie aussi, ça marche bien.
Bah non, même pas, parce que c'est pareil, ça peut couler. C'est comme le retrait, hein. c'est pareil, c'est pas...
Faut pas ne faites pas ça, d'une manière générale. Effectivement,
c'est le sexe. Arrêtez le sexe. Arrêtez tout. Arrêtez tout, c'est nul.
Bon les mecs, merci beaucoup.
Bah, merci à toi pour l'invitation.
Je vous fais des bisous, à bientôt. Et puis
merci à tous les
deux d'avoir été là. Vraiment, c'est trop bien.
C'était vraiment une chouette soirée. Donc,
Et pour la soirée.
Et allez vous faire snip snip. Hein. Tous.
On va finir là-dessus.
J'ai les noms.